Ah merde, y a pas de musique. Ah non, y a pas de musique. Ah putain, non mais je l'ai pas mise la musique. Mais oui, non mais il faut que je la remette. Non mais. Oh là là, aujourd'hui y a rien qui va. Hein. Oh non, ça va pas du tout. Elle est dans quel fichier? Oh putain. Non mais vas-y, on va le faire sans musique. Non mais vous pouvez chanter, chantez chez vous, chantez chez vous. Allez, tout le monde chante, tout le monde s'ambiance. Tu m'as jumpscare. Ah pardon, j'ai jumpscare. Ah bah oui, non mais du coup il y avait pas de son. Non mais bien. Oh là là. Oh non mais vas-y, générique, nique sa mère, allez. Oui, bonjour! Bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue! Comment ça va? Incroyable, désolé, je suis en retard! Je suis en retard parce que j'étais au congrès de l'Association des maires de France, l'AMF. Regardez le Zouli collier bleu, blanc, rouge de l'AMF. J'étais au congrès de l'Association des maires de France qui m'ont invité à participer à une table ronde sur la question de la jeunesse et de l'engagement des jeunes. Merci, je tiens à remercier l'AMF. Je tiens à remercier l'AMF qui a quand même organisé une matinée entière de discussions et de conférences sur le sujet spécifique de la jeunesse. Et ça, c'est cool. Voilà, merci l'AMF. Merci l'AMF d'avoir fait ça. Vous avez bien raison, c'est chouette. Et c'était très intéressant. J'ai rencontré Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo, voilà, Jean-Louis Borloo était là. Il vous embrasse, il va bien. Il a fait une longue intervention. Il a plaidé pour un espèce de fédéralisme français, un truc à l'espagnol, en disant l'État doit se concentrer sur les questions régaliennes de sécurité et doit foutre la paix aux provinces, et utiliser le mot province, qui doivent gérer absolument toutes les autres compétences toutes seules. Voilà. Et il a dit on est un pays surréglementé, on est surendetté, on a été un pays centralisé pour le meilleur et pour le pire, on est devenu un pays décentralisé pour le pire. Les conditions sont mauvaises, il faut foutre la paix aux élus locaux, les laisser travailler, machin. Ancien maire de Valenciennes, Jean-Louis Borloo. Mais c'était pas tout à fait le sujet, en fait, parce que nous, on était là pour parler de la jeunesse, mais c'est pas grave. T'as croisé ma maman qui est maire, et là-bas aussi, j'espère qu'elle a été gentille avec Jean-Louis et toi. Mais du coup, j'ai croisé plein de maires, j'ai croisé plein d'élus locaux, j'ai croisé plein de gens. J'ai recroisé Hugo. Vous vous souvenez, Hugo, qu'on avait reçu sur le plateau quand on avait fait le congrès de la MRF? Le plus jeune maire de France qui a été élu à 18 ans. Bah, il était là, ça m'a fait plaisir de le revoir. Et voilà, c'était chouette. Et puis voilà, les échanges étaient moult intéressants. La table ronde était chouette, les élus locaux étaient chouettes. Putain, les élus, non mais vraiment, les élus locaux qui se bougent pour faire des trucs pour les jeunes dans leur commune alors qu'ils n'ont pas de budget, pas le temps et tout machin, qui se font chier à faire des conseils municipaux pour les jeunes, pour les enfants, qui font de l'animation locale et tout machin, trop bien. Trop, trop bien. Bravo les élus locaux, vraiment bravo. Hein, vous êtes les héros masqués de la République. Heureusement que vous êtes là. C'était où? C'était au parc des expositions de la porte de Versailles. C'est littéralement à l'autre bout de Paris par rapport à chez moi. Donc j'ai mis une plombe à rentrer. Il y avait des bouchons, Hidalgo démission. Et donc je suis en retard, voilà. Ils ont dit quoi sur la jeunesse et les maires? Je travaille là-dessus. Tu aurais un article, un endroit où je peux retrouver ça. C'est sur la chaîne YouTube de l'AMRF. C'est sur la chaîne YouTube de l'AMF, pardon, de l'AMF, de l'Association des maires de France. C'était diffusé. C'était diffusé. Conférence sur la jeunesse. Alors, attends, c'est où? Je suis sur leur chaîne YouTube là. Ils m'ont dit que c'était diffusé hein, en direct. Le Grand Forum, conférence de presse. Non, ça c'est pas encore. AMF TV. Diffusé il y a 1 heure, 2h43. Ouais, c'est ça.
Alors oui, ils sont aussi Internet est surinvesti par des jeunes qui souvent n'ont qu'Internet comme accroche du monde. Et effectivement, sur ces réseaux sociaux, c'est très intéressant de venir parler de politique, de venir faire de la vulgarisation, de l'explication, de la pédagogie sur le fonctionnement de la politique au sens très large. Ça inclut bien sûr les collectivités territoriales, parce qu'on se rend compte que les jeunes, quand on leur parle de politique, ils ne sont pas réfractaires du tout. Les jeunes ne sont pas fermés à la politique. Ils la connaissent mal. Ils n'en ont pas une très bonne image. Ça ne leur donne pas très envie spontanément. Il y a quelque chose de très aride, pour le dire autrement, il y a quelque chose de très chiant dans la manière qu'a la politique de se montrer. Mais dès lors qu'on dépasse cette surface et cette écorce, on se rend compte que quand on rentre dans le cœur de ce qu'est la politique et de ce qu'est l'engagement, y compris au niveau local, ben là, les jeunes s'y retrouvent. Parce qu'on parle de quoi? On parle de solidarité, on parle de climat, on parle de lutte contre les discriminations, on parle de beaucoup, beaucoup de choses qui les touchent très directement et ils se sentent tout à fait à l'aise dans la conversation.
Alors oui, ils sont aussi.
Ça, c'était les petits-enfants du conseil municipal des enfants de je sais plus quelle ville des Hauts-de-Seine, je crois. Ils étaient là, ils nous écoutaient, les petits-enfants.
Aussi comme l'ensemble
Bon, bref, il parle bien le monsieur, il parle bien le monsieur. Hein. Ouais, non, c'est intéressant ce qu'il dit. Non, ça, non, c'est bien, c'est intéressant, ouais. Il a la même coupe de cheveux, ouais. Tu as dit chiant devant des enfants. Putain, j'ai dit des gros mots. Vous savez que je dis beaucoup de gros mots. Et il y a déjà des gens qui m'ont dit t'es chiant parce que moi je regarde tes streams avec mes enfants à la maison. Je te mets sur la télé dans le salon, il y a les gosses et tout. Et vas-y, on essaie de faire l'éducation civique et tu dis des gros mots là. Bah, putain, Jean. Là, je suis désolé. Pardon, pardon les parents. Excusez-moi les enfants, faut pas dire ça. Les enfants, c'est pas bien. Pourquoi il y a un USB là qui fait doudoudoum? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est chiant. Il y a rien qui va aujourd'hui. Faut remplacer les gros mots par purée et mince. Ouais, fait chier, hein, voilà. C'est chez toi l'USB. Oui, c'est chez moi l'USB. Il y a un USB qui fait doudoudoum là. Qu'est-ce qui se passe? Je touche à rien. Je touche à rien, j'ai rien fait. J'ai rien fait, c'est pas moi. Sapristi. Ouais, sapristi, diantre. Je vais essayer de m'y faire. Je m'y ferai jamais. Je vous le dis tout de suite, je m'y ferai jamais. Continue à dire des gros. Tiens, j'ai toujours le bracelet. J'ai toujours le bracelet de l'AMF. Je déteste ça. Vraiment, il va falloir que je le retire, celui-là. Si je tire très fort. Aïe, putain, ça fait mal. Non, ça marche pas. Vas-y, il peut pas le déchirer, là? Ah, aïe. Voilà, c'est bon. Je suis libéré, délivré. Ça dégage. Non mais donc du coup en plus je suis presque triste parce que j'ai pas pu vraiment profiter du salon des maires de France quoi. Je veux dire quitte à y être, j'aurais bien passé 1 heure à juste déambuler dans les allées, rencontrer des élus, faire un bisou à Public Sénat qui était là, discuter avec les gens et tout. Et puis non, ben non, je devais rentrer. Moi j'ai stream, hein, j'ai stream. Hein. La France m'attend, le public m'attend. Qu'est-ce que je ferais pas pour le public hein? Donc non, non, ben, je suis rentré direct. Je me suis barré. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Il faut que je mange. Putain, j'ai pas bouffé. J'ai mangé pendant la séance des QAG. Nous allons assister à la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale qui va commencer dans 25 minutes. Et peut-être qu'il y aura encore des questions sur les collectivités locales, sur les maires de France. Autant commander. Mais non, ça va mettre une plombe à arriver. Non, 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 je vais pas commander. Je vais pas commander des sushis. Manger ce qu'il y a dans mon frigo sera très bien. Est-ce que c'est hebdomadaire les QAG? Oui, les questions au gouvernement ont lieu chaque mardi et mercredi à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Le mercredi, il y a une seule séance au Sénat. Il y a deux séances à l'Assemblée, une séance au Sénat. Alors ça a changé par le passé, il y a eu pendant plusieurs années, il n'y a eu qu'une seule séance à l'Assemblée, puis et une seule au Sénat, puis deux. Bref, là pour l'instant il y en a deux et on continue sur deux quoi. Donc voilà. Ce serait intéressant d'avoir les questions au Sénat une fois. Bah, alors moi, j'ai streamé les questions au Sénat pendant 4 ans. J'ai streamé les questions au Sénat en partenariat avec Public Sénat à l'époque. Voilà, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis Public Sénat a voulu arrêter, donc on a arrêté. Et puis voilà. Et on le refera peut-être un jour, le jour où il y aura de l'enjeu. Le jour où il y aura de l'enjeu au Sénat. Alors tu me diras, là, il va y avoir de l'enjeu, parce qu'il y a le marathon budgétaire qui commence au Sénat, donc sur le volet recettes du projet de loi de finances. Donc ouais, non, ce marathon budgétaire commence au Sénat. Le Sénat qui a bien l'intention de réparer les folies gauchistes de l'Assemblée nationale, tous ses impôts et toutes ses taxes. Et puis ça va se régler en CMP ensuite, et puis en lecture définitive à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, à ce sujet, non mais attendez, parce que... Attends. Voilà. Votre streamer préféré, comment il s'appelle, l'autre tête à claque là, Jean Massier, ça fait 3 semaines qu'il vous explique benoîtement que, a priori, tout ça va finir en ordonnance, que le budget va passer par ordonnance, machin, etc. Et là, qu'est-ce que ne fut pas ma stupéfaction? Lorsque j'ai vu hier une citation d'Amélie de Montchalin, la ministre du Budget, qui dit « Je confirme qu'il n'y a pas de rédaction d'ordonnance à Bercy, ce n'est pas notre scénario, ce n'est pas notre stratégie. » Quoi? Comment? Qu'est-ce... Ah bon? Mais alors... Pardon de poser la question, mais c'est quoi votre stratégie? Parce que pas de 49-3, pas d'ordonnance, ça veut dire qu'il y aura un vote du budget? Budget que personne n'a l'intention de voter, même les macronistes ont dit qu'ils ne le voteraient pas? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on finit sur une loi spéciale en décembre, c'est ça? Genre tout ça pour ça? Toutes ces prises de choux, machin, pour finir sur une fucking loi spéciale qui nous renvoie vers un budget rectificatif en janvier? Non, je sais. Non, je sais. Voilà, moi, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'en sais. C'est quoi le. Quel est le fuck, quoi? C'est quoi une loi spéciale? Une loi spéciale, c'est ce qui avait été voté l'année dernière au moment de la censure de Michel Barnier. C'est une loi d'urgence par laquelle l'Assemblée nationale reconduit les crédits de l'année précédente. En gros, c'est pour passer Noël. C'est pas un budget. C'est une reconduction des autorisations de crédit pour le gouvernement. Et de perception évidemment des impôts sur la base des calculs de l'année précédente. C'est juste un sparadrap pour passer un mois et demi. Puis il faudra un budget. Donc il va bien falloir un budget à un moment, il va falloir qu'on vote un truc. Qu'on vote ou qu'on fasse passer un 49-3, j'en sais rien, mais il va falloir un truc à un moment, quoi. L'année dernière, je vous rappelle ce qui s'est passé, censure de Michel Barnier sur le budget, vote d'une loi spéciale, nomination de François Bayrou. Puis adoption d'un budget par 49-3 avec l'abstention des socialistes. Vous vous souvenez? Vous étiez déjà abonné à la chaîne à l'époque. Et bah là, du coup, on retournerait sur le même scénar, c'est ça? Mais parce que si, non, mais tiens, attendez, moi, si on repart là-dessus, ça veut dire qu'il y a une dissolution. Ça va être un bordel. Ça va être un bordel. Motion de censure votée en décembre, dissolution dans la foulée, élection législative en janvier. Du coup, on repousse les élections municipales. Oh, putain, la vache. Pourquoi dissolution? Pourquoi dissolution? Parce que... Alors, dans l'absolu, vous avez raison, Emmanuel Macron pourrait toujours tenter de créer une coalition. Sauf que je vous rappelle que ça fait 2 ans qu'il essaye de créer une coalition et que ça ne marche pas. Voilà, il a essayé plus ou moins avec le RN, ça n'a pas marché. Il a essayé plus ou moins avec les socialistes, c'est en train de se péter la gueule. Qu'est-ce qui reste? En fait, il y a un moment, je veux bien, mais qu'est-ce que quoi? Quel budget peut être adopté par cette Assemblée nationale? comment dire, Sébastien Lecornu aura eu le mérite de laisser l'Assemblée nationale faire un budget. Avec l'abandon du 49-3, il a dit aux députés, c'est vous qui votez, c'est vous qui voyez. Sauf que c'est tout vu, les députés ont voté des trucs tellement chelous les uns par rapport aux autres que personne ne veut du budget, qu'il n'existe pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter ce budget. En tout cas, j'y crois pas. Est-ce que c'est vrai que par ordonnance, on est obligé de se tenir à la V1 du PLF ou la version de la CMP peut passer par ordonnance? La question que tu poses est une très bonne question, parce qu'en fait, la réponse, on ne la connaît pas. Il faut bien se rendre compte que le budget par ordonnance, c'est jamais arrivé. Une fois en 58, je crois, un truc comme ça. Le véhicule législatif, le véhicule constitutionnel des ordonnances budgétaires est un truc pour lequel on n'a pas suffisamment de recul, notamment jurisprudentiel. Moi, ce que j'entends beaucoup depuis quelques semaines, c'est des gens qui me disent « De toutes les façons, si on passe par ordonnance, le Conseil constitutionnel tiendra compte du caractère urgent pour avoir une interprétation très souple de la Constitution et en gros laisser le gouvernement faire passer les ordonnances qu'il souhaite. Ce qui ouvre la porte à des ordonnances qui impliquent des amendements votés à l'Assemblée nationale ou issus de la CMP, enfin à voir. Bref, c'est pas forcément la V1 du PLF qui passe par ordonnance. C'est ce que j'ai compris à date de ce qui a l'air d'être le consensus. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'un Sébastien Lecornu, parce que c'est pas compliqué. Si Sébastien Lecornu dit aux députés, mesdames et messieurs les députés, pour des raisons constitutionnelles, je suis obligé de faire passer la V1 du budget par ordonnance sans aucun de vos amendements, bah il se prend une motion de censure dans la gueule, en fait. Enfin, juste personne ne veut de ce budget. Les opposants vont voter une motion de censure, ciao, bye bye, quoi. S'il n'y a pas la suspension de la réforme des retraites, s'il n'y a pas machin, enfin, alors là. Donc, il a tout intérêt à faire passer dans les ordonnances, s'il utilise le véhicule des ordonnances, des amendements qui ont été votés, ne serait-ce que la suspension de la réforme des retraites. Alors, tu me diras, la suspension de la réforme des retraites, elle est dans la V1 du budget, puisqu'il a fait une lettre rectificative. Donc, ouais. Est-ce que c'est pas créer beaucoup de pouvoir en plus pour le président avec une telle lecture de l'utilisation des ordonnances de budget? Non, ça n'a rien à voir avec le président, c'est purement gouvernemental. Ça n'a rien à voir avec Macron, là, pour le coup, c'est de la compétence du gouvernement. Est-ce qu'un potentiel décalage des municipales prolongerait le mandat des sénateurs? Non, parce que les sénateurs seront renouvelés en septembre 2026, donc on a le temps, je pense, de maintenir les élections sénatoriales, d'autant que les élections sénatoriales sont des élections bien plus simples à organiser que des élections municipales. Des élections municipales, c'est des bureaux de vote dans 35 000 communes. Il faut rendre hommage aux fonctionnaires des préfectures et des communes qui organisent les élections. Parce que c'est un monstre de complexité, d'organisation, de tables, de chaises, d'urnes, d'isoloirs, de panneaux pour les machins, les... GG les fonctionnaires territoriaux, qui que vous soyez, parce que l'année 2026, elle va être folle. Les élections sénatoriales, c'est beaucoup plus simple. Je crois que les élections sénatoriales se passent dans les préfectures. Donc, si tu fais des bureaux de vote dans les préfectures, c'est facile à organiser. Ça coûte pas très cher. Enfin, c'est... Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de décaler les sénatoriales. Les grilles devant les écoles et tout. Ah ouais, non, et les grilles devant les écoles pour coller les affiches des candidats, machin. Enfin, non, c'est un boulot monstre. Hein. On se rend pas compte. Enfin, vous et moi, on va dans le bureau de vote là comme ça, la fleur au fusil, mettre un bulletin dans l'urne. Mais en fait, juste la tenue du bureau de vote, c'est déjà un petit miracle en soi, quoi. Merci les fonctionnaires d'avoir organisé tout ça pour que tout soit prêt le jour J et tout. GG, quoi. Pourquoi décaler les municipales? Parce que les services préfectoraux tirent la sonnette d'alarme. Et d'ailleurs, ils l'avaient déjà fait sur le risque d'une dissolution en septembre, là, après Bayrou, en disant on n'est pas capable d'organiser des élections législatives anticipées en urgence, puis des élections municipales 2 mois plus tard. Genre, ça peut pas tenir. On n'a pas les, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens. On est, c'est logistiquement, c'est juste pas possible. Il va falloir nous laisser du temps. Donc voilà. Donc là, s'il y a une dissolution qui est votée avant Noël, là, ça veut dire qu'on fait des élections législatives en urgence en janvier. Et ça veut dire qu'on enchaîne sur des élections municipales qui seraient peut-être pas en mars, mais peut-être en juin, je sais pas. J'en sais rien. Ça va être un merdier, putain. Synchroniser les municipales et les législatives, ça fait un maxi midterm à la française. Moi, je suis pour. Je veux dire, dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. On s'en fout. On fait deux urnes côte à côte, une urne pour les municipales, une urne pour les législatives, et on vote le même jour, etc. Je crois que pour des raisons constitutionnelles, c'est pas possible. J'ai pas très bien compris pourquoi, mais apparemment, c'est pas possible. On peut pas faire ça. À discuter. Je comprends pas pourquoi les municipales ne sont pas décalées de quelques mois. La prise de fonction avait été retardée en 2020 avec le Covid. Oui, tu as raison, mais c'était à cause du Covid. Pardon, mais c'était un cas de force majeure assez compliqué, hein, le Covid. Puis rappelez-vous, en plus, on avait décalé les deux tours. Il y avait le premier tour et le second tour décalés à cause du confinement. Pareil, ça avait été un merdier sans nom, hein. L'année 2020, les élections, ça avait été très, 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 très compliqué à organiser. Donc là, pour le coup, c'est le rôle du ministère de l'Intérieur, qui a la tutelle sur les préfectures, c'est le rôle du ministère de l'Intérieur de dire ce qu'il est possible, réaliste, de faire en termes d'organisation de scrutin. Et à l'heure où je vous parle, il y a des fonctionnaires qui bossent là-dessus, hein, il y a des préfets et tout, qui sont en train de travailler dessus, qui font des notes, qui font remonter des notes à Paris, en disant clairement ce qu'on est en moyen de faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui serait envisageable, scénario B, scénario machin. Donc ouais quoi. Pour toi, est-ce que la France a un problème de poupée russe? Trop de services qui servent ou ne servent à rien? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Écoute, j'en sais rien. J'ai jamais rencontré de fonctionnaire qui sert à rien. Je suis désolé, j'ai tous les services ont une utilité, une cohérence dans un cadre réglementaire, législatif précis qui a été déterminé, qui est machin, etc. On peut rediscuter de l'efficacité des services publics, mais ne faites pas l'erreur de croire qu'il existe des armées de fonctionnaires qui ne foutent rien dans leur bureau. Ça n'existe pas. C'est juste pas réel. J'ai jamais rencontré de fonctionnaires qui servaient à rien. Par contre, j'en ai rencontré qui travaillaient 2 jours par semaine. Oui, ça s'appelle les temps partiels, oui. Ce sont souvent des mères de famille, d'ailleurs, qu'on embrasse et qu'on félicite. Donc ouais, non, mine de rien, hier soir, quand j'ai vu ça, là, quand j'ai vu que le gouvernement était en train d'expliquer publiquement qu'il laissait tomber l'idée même de faire des ordonnances, je me suis dit, mais putain, c'est quoi votre projet, en fait, les gars? Parce que moi, j'essaie d'être réaliste 2 minutes, ça tient pas la route. Merci Glouton, merci Médor, merci Sly, merci Jeff, merci Skyness, merci Pablito, Frodeux, Will Pietrak, Max, Oulan, Laetidi, merci pour vos resubs. Bref. La séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale va débuter dans 10 minutes. Quels sont les sujets d'actualité qui sont susceptibles d'être abordés? et qui n'ont pas été abordées hier, sachant qu'on est en plein donc, congrès de l'Association des maires de France, l'occasion de parler, et puis en plus on est à 4 mois des municipales en principe, donc l'occasion de parler des territoires, des compétences des collectivités locales, des dotations globales de fonctionnement, etc. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme sujet ? La plainte de Laurent Nunez contre Pierre-Emmanuel Barré, potentiellement, à voir. Je ne sais pas si ce sera abordé. Le Mercosur, ouais, t'as raison, le Mercosur. Ouais, le Mercosur, on est en plein dedans, là, les négociations, c'est maintenant. Grosse mobilisation en France contre le Mercosur. Comment il s'appelle ? François Ruffin a réussi à faire adopter une résolution en joignant la France à saisir la Cour de justice de l'Union européenne contre le Mercosur. Le narcotrafic, ouais, le narcotrafic, carrément. La messe en mémoire de Philippe Pétain. Ouais, on n'en a pas parlé hier dans les QAG, la messe en mémoire de Philippe Pétain. Est-ce que ça mérite une question au gouvernement ? Je ne sais pas. Enfin, non pas que le sujet ne soit pas grave, c'est pas ce que je dis, mais c'est... Est-ce que ce n'est pas un micro-événement gigalocal sur lequel, de toutes les manières, tout le monde est d'accord ? Le gouvernement et les députés sont scandalisés. L'État a porté plainte. Enfin bon, il y a un moment, Oui, bon, peut toujours valoir le coup de poser une question au ministre de la Justice, quoi. La guerre en Ukraine, ouais, la guerre en Ukraine. On en a parlé hier de la vente par la France de 100 Rafales, avions Rafales, à l'Ukraine, qui doit encore faire l'objet d'une négociation et d'un contrat, mais en tout cas, il y a une lettre d'intention qui a été signée par Volodymyr Zelensky. Visite de Zelensky en France, oui, visite de Zelensky en France. Donc, dans l'absolu, ce serait la continuité de ce qu'on a dit hier, ouais. La plainte de France TV contre les médias Bolloré. Oui, tu as raison. France Télévisions et Radio France ont annoncé déposer une plainte contre les médias Bolloré pour dénigrement, le délit de dénigrement, suite à la campagne qui a été menée par les médias Bolloré contre France Télévisions et Radio France au cours des semaines et des mois passés. Ouais. Peut-être que l'extrême droite va poser une question là-dessus, ouais. Putain, c'est drôle, parce que du coup, ça veut dire que Rachida Dati va être obligée de défendre Radio France Télévisions et Radio France. Pardon. J'ai hâte de voir ça. C'est quoi ce délit ? Le délit de dénigrement est un délit qui est puni de je ne sais plus combien, et c'est un délit qui est caractérisé par le fait de porter atteinte à une personnalité publique, à une personnalité morale, je veux dire, ça peut être une entreprise, une association, un syndicat, un organisme public, en le dénigrant publiquement et en répandant sur lui des nouvelles tronquées et fausses, de manière à provoquer un éloignement du public. Ce n'est pas très très éloigné de la diffamation, parce que la diffamation, c'est une atteinte à l'honneur, donc c'est encore autre chose. Voilà, ce qu'on appelle le délit de dénigrement. Par exemple, une marque qui dénigrerait une marque concurrente en disant publiquement que ses produits sont dangereux, que ses produits sont mauvais, que ses produits sont machin, pourrait être condamnée pour dénigrement. On parle de Leroy Merlin. Ouais, le roi Merlin qui a annoncé retirer ses publicités du site Frontière, du site d'extrême droite Frontière. Je réfléchis, mais qu'est-ce que le gouvernement peut avoir à dire là-dessus ? Enfin, alors pour le coup, le roi Merlin est une entreprise qui est libre de faire de la publicité où ils veulent. Non, je sais pas, je veux bien l'imaginer, mais j'ai du mal à voir. Je vois bien le RN en parler. Ouais, non, mais à part s'en indigner, en fait, ma question, c'est quoi la question que tu poses au gouvernement ? Qu'est-ce que le gouvernement français peut faire ou même peut dire sur ce sujet qui, pour le coup, relève pas du tout de l'État, quoi. Enfin, non, je sais plus. Moi, je serais ministre, tu me poses une question là-dessus, je prends le micro et je te réponds. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur le député? Le roi Merlin a décidé d'arrêter de faire de la pub sur un site internet. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Ils font ce qu'ils veulent. Enfin, c'est encore heureux que les entreprises sont libres de faire de la pub sur les sites qu'ils veulent. Quelle est la réelle utilité des questions au gouvernement? Est-ce que c'est pas du temps perdu sans légiférer? Bon, alors déjà, ça dure qu'une heure. Franchement, en termes de temps perdu, ça va, c'est honnête. Et ensuite, je vous rappelle que le rôle du Parlement, ce n'est pas que de légiférer. C'est aussi de contrôler l'action du gouvernement. Et puis, c'est aussi d'évaluer les politiques publiques. Donc non, ce n'est jamais du temps perdu. On ne perd jamais du temps à demander des comptes au gouvernement sur son action ou son inaction. Sur le narcotrafic avec la déclaration du président sur les consommateurs. J'ai suivi ça de loin, mais qu'est-ce qu'il a dit Emmanuel Macron? Non, mais j'ai raté plein de trucs parce que j'ai pas non plus regardé le débat entre Raphaël Glucksmann et Éric Zemmour. Putain, faut que je rattrape ça aussi. Mais j'aurai jamais le temps, faut que je fasse ça ce soir. Oh. Il a dit quoi, Macron? Si tu consommes de la C, tu finances le narcotrafic en gros. Oui, c'est une banalité. Enfin, oui, ça c'est quoi? C'est la responsabilisation des consommateurs? Oui, bah c'est. Enfin, c'est. Oui. Enfin, je veux dire, si la seule chose qu'a dit Macron, c'est il faut que les consommateurs se rendent compte que en consommant de la drogue, ils financent le narcotrafic, etc. Oui, merci. Oui. C'est. Ouais. Il a insinué que les jeunes des quartiers bourgeois finançaient. Pardon, mais ça a toujours été vrai. Hein. Pardon, mais. Les mecs dans les quartiers bourgeois qui votent à droite contre l'insécurité et l'immigration et qui sont bien contents qu'il y ait un jeune immigré qui vienne leur livrer de la drogue à la maison. Voilà, ça s'appelle une hypocrisie. Ma sœur était dans un lycée public entouré de quatre lycées privés. C'était dans les lycées privés qu'elle allait se fournir. M'en parle pas. Moi, j'ai traîné mes guêtres dans l'enseignement catholique pendant quelques années. T'inquiète que j'ai vu ce que j'avais besoin de voir. Disons que l'évangile a le dos large. C'est pas les seuls, bien sûr, que les bourgeois payent, mais ça fume plus dans le quartier. Je crois que la consommation de drogue, alors ça pour le coup, les chiffres de la consommation de drogue en France montrent que malheureusement c'est très très bien réparti et sur le territoire, en termes de classe sociale, en termes de quartier, etc. Là aussi, faisons pas l'erreur d'avoir une lecture un peu simpliste, consiste à dire que les drogués se trouvent en banlieue. Non, non, ils sont partout les drogués. Enfin, c'est. Ouais, non. Il est 14h. Ouais, il est 14h. Ça devrait commencer incessamment sous peu. Je vous tiens au courant, évidemment, de l'évolution. Vous inquiétez pas. Est-ce que tu as un backseat préféré à conseiller? Le backseat de la semaine prochaine. Mais non, je ne vais pas te conseiller un backseat. Tous les backseats sont extraordinaires. Il n'y a pas backseat cette semaine. Hein. Je vous préviens, il n'y a pas backseat ce jeudi. On a fait Euroguessr sur la chaîne d'Arte lundi, là. Donc demain, je fais une revue d'actu à 17h. Hop! Le débat va commencer, mesdames et messieurs. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui monte les marches pour aller jusqu'au perchoir. Elle dit bonjour à tout le monde. Les fonctionnaires qui sont derrière elle.
Bonjour à tous, la séance est ouverte.
Et Zébardi. Alors.
Monsieur le Premier ministre.
Bonjour.
Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues, avant de commencer cette séance des questions au gouvernement, je voudrais que nous pensions ensemble à notre ancien collègue André Chandernagor, dont nous avons appris hier la disparition. Il s'est éteint dans sa ville d'Aubusson, au cœur du département de la Creuse, qu'il chérissait tant, 2 mois après avoir célébré son 104e anniversaire.
104 ans, c'est beaucoup.
Il a été député de la Creuse pendant 7 mandats consécutifs, de 1958 à 1981. Il fut élu vice-président de notre Assemblée en 1967. Il était, figurez-vous, le dernier député de la première législature de la Ve République à être encore en vie. En 1981, suite à l'arrivée de la gauche au pouvoir, il fut nommé ministre délégué chargé des affaires européennes dans les gouvernements maurois. Il quitta notre hémicycle en 1983 pour devenir premier président de la Cour des comptes jusqu'en 1990. Il avait également un ancrage local profond. Il était maire de Mortroux durant 30 ans, président du Conseil général de la Creuse et du Conseil régional du Limousin. Il fut dans notre hémicycle le visage et la voix de ce terroir creusois et limousin qu'il affectionnait tant. Et donc, au-delà de ce parcours républicain d'exception, ses proches et collaborateurs garderont le souvenir d'un humaniste pragmatique, respectueux, à la personnalité chaleureuse et à la bonne humeur communicative, et je voulais qu'ensemble nous ayons une pensée pour cet homme d'exception, ce grand républicain qui a tant donné à notre pays. Merci pour lui.
Petit moment de recueillement à l'Assemblée nationale à la mémoire Merci de cet beaucoup. Ancien député mort à 104 ans. J'ai zappé son nom, je suis désolé.
Et la première va être posée par monsieur Max Mathiazin pour le groupe Lyot.
Allez, c'est-y, part pour les questions au gouvernement avec Max Mathiazin, député de Guadeloupe, Merci mesdames
madame
et messieurs.
Madame la présidente.
Non.
Madame la présidente, mes chers collègues.
Voilà.
Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. 47 morts en Guadeloupe et à Saint-Martin depuis le 1er janvier. La plupart par armes à feu et en pleine rue. Cette violence est liée au narcotrafic en provenance d'Amérique du Sud et en circulation exponentielle des armes à feu. Nos concitoyens oscillent entre la terreur, la peur et la résignation. Votre prédécesseur, monsieur le ministre, est venu en Guadeloupe au mois d'août pour constater par lui-même le niveau d'insécurité, l'ampleur du narcotrafic et les besoins des forces de l'ordre et des douanes, tant en personnel qu'en matériel. Mais où sont les moyens supplémentaires pour lutter contre le narcotrafic et le trafic d'armes? Où sont les drones qui ont été promis? Où est le laboratoire d'analyse balistique et ADN, puisque ça met 3 mois pour nous revenir en Guadeloupe? Où sont les radars? Où sont les bateaux? Puisque les bateaux ne fonctionnent pas, et vous le savez très bien, et j'en passe. Le 4 novembre, devant la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les dysfonctionnements de l'accès à la justice en Outre-mer, le garde des Sceaux annonçait une augmentation du nombre de magistrats et de nouveaux projets immobiliers. Alors, hier, le président de la République a organisé une réunion de crise à l'Élysée sur le narcotrafic. Mais la lutte contre le trafic des stupéfiants et la criminalité organisée n'est pas qu'à Marseille, malheureusement.
Max Mathiazin, député de Guadeloupe, il a 69 ans, il a été directeur de la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre, chargé de direction de Guadeloupe Formation. Il a été condamné à 1 an de prison l'année dernière avec sursis pour détournement de biens publics issus de la Caisse des écoles. Faut pas détourner l'argent des caisses des écoles, c'est pas bien. C'est pour les enfants, la Caisse des écoles.
Merci, monsieur le député. La
parole... Il pose une question sur le narcotrafic en Guadeloupe. On écoute Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur.
Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, vous avez raison de souligner que la situation sécuritaire des Antilles est évidemment inquiétante et sera une priorité du gouvernement et donc du ministre de l'Intérieur, et en particulier la situation évidemment de la Guadeloupe. Vous avez cité le nombre d'homicides, la présence du trafic de stupéfiants, de traite des êtres humains, de l'immigration illégale, autant de fléaux contre lesquels nous allons lutter avec des moyens supplémentaires. Vous les avez cités, monsieur le député, et je ne peux que vous confirmer les engagements qui ont été pris par mon prédécesseur lors de sa visite au mois d'août dernier. D'abord, dans le cadre des brigades, des 239 brigades de gendarmerie, nous avons une brigade qui a été créée, comme vous le savez, à Goyave, et puis il y en aura une autre qui verra le jour à Courbert en 2026. Il restera à créer une brigade mobile à capesterre de Marie-Galante. Et puis, elles viendront en plus des récentes créations de brigades qui ont eu lieu. Je puis vous rassurer également que nous lutterons sur le front maritime en implantant la brigade dont je parlais à l'instant, la brigade Courbert, dans le courant de l'année 2026, sous réserve évidemment du vote du projet de loi de finances pour 2026, mais cette brigade sera bien créée. De la même façon, il y aura bien la création, et c'est d'ailleurs déjà le cas, le groupe a été créé, un groupe qui visera à lutter contre les armes à feu, contre le trafic d'armes à feu, aussi bien d'ailleurs en police nationale qu'en gendarmerie nationale. Je vous le confirme évidemment d'ores et déjà, au même titre que je vous confirme qu'une unité balistique doit voir le jour. Vous savez que c'est extrêmement important, de manière à ce que les analyses puissent être faites in situ, et ce qui permettra évidemment de mieux caractériser les infractions et de mieux comprendre ces phénomènes. Et évidemment, donc, tous les moyens qui ont été annoncés seront bien mis en place. Je peux vous le confirmer, et au même titre que la coopération que nous avons à l'échelle de la région sera développée. Évidemment, je ne peux terminer sans avoir une pensée pour les 1749 policiers et gendarmes qui œuvrent avec beaucoup d'efficacité en Guadeloupe.
Merci,
et rappeler que nous avons un deuxième escadron de gendarmerie mobile pérennisé.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à madame Béatrice Piron pour le groupe Horizon.
Béatrice Piron, députée des Yvelines.
Merci, madame la présidente. Demain, nous célébrerons la Journée internationale des droits de l'enfant. Chaque année, le 20 novembre, les acteurs du monde de l'enfance commémorent l'adoption, en 1989, par l'ONU, de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mais cette journée symbolique est aussi l'occasion de dresser un constat lucide sur l'état des droits de l'enfant dans notre pays. J'aurais pu interroger le ministre de l'Éducation nationale à propos des enfants privés de scolarisation, notamment en Outre-mer. J'aurais également pu interpeller le ministre du Logement sur ces enfants, toujours plus nombreux, qui dorment à la rue, comme a pu le souligner le dernier baromètre de l'UNICEF. Mais finalement, j'ai choisi d'aborder le sujet de l'aide sociale à l'enfance et j'adresse ma question à madame la ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Depuis 10 ans, le nombre d'enfants confiés à l'ASE ne cesse d'augmenter et la protection de l'enfance traverse une crise structurelle sans précédent. Un manque criant de moyens humains et financiers, une coordination encore insuffisante entre les services sociaux, judiciaires et médicaux, des retards préjudiciables dans les évaluations et la mise en œuvre de ces accompagnements, un contrôle insuffisant des établissements d'accueil et un manque de suivi individualisé des enfants confiés. Dans ce contexte, avec les membres de la délégation aux droits des enfants, nous avons déposé en mars dernier une proposition de loi transpartisane relative à l'intérêt des enfants. Cette PPL n'a toujours pas, à ce jour, été inscrite à l'agenda parlementaire. Madame la ministre, au regard de ces constats partagés par l'ensemble des acteurs de terrain, quelles sont vos propositions pour renforcer la protection de l'enfance ? Enfin, je souhaite également remercier Perrine Goulet pour l'organisation...
Béatrice Piron, députée des Yvelines, du côté du Chesnay, elle a 60 ans. Elle est ingénieure, diplômée de l'école polytechnique féminine. Elle a débuté sa carrière professionnelle au Japon. Elle a été invitée par La République En Marche. Elle a pris la suite d'Henri Guénaud dans les Yvelines. Et elle a rejoint le groupe Horizon à l'Assemblée nationale en 2024. Après la dissolution, le groupe Horizon, c'est le groupe des députés qui sont proches d'Édouard Philippe, le futur président de la République.
Ministre de la Santé.
On écoute la ministre de la Santé sur les droits de l'enfant. Merci pour cette question
madame
sur les droits de l'enfant.
Députée Béatrice Piron, merci beaucoup pour votre question, qui est une question qui rencontrent des difficultés structurelles de notre système de protection de l'enfance. Le gouvernement en a conscience. Malgré l'implication importante des 130 000 professionnels impliqués et des moyens des départements, en hausse de 12 milliards, c'est une hausse continue. Nous ne sommes collectivement toujours pas, on peut le dire, à la hauteur. Effectivement, sur 400 000 enfants protégés, une proportion significative connaît des délais d'attente pour l'application des placements, des retards et des difficultés de scolarisation, des problématiques de santé, vous l'avez dit, notamment de santé mentale, parfois insuffisamment protégés contre la prostitution, voire le proxénétisme. Le budget 2026 est sans transition. Le budget 2026 a une augmentation de 55 millions d'euros des moyens de l'État dédiés à cette politique dans le projet de loi de finances. Vous le savez, 35 millions de compensation pour l'application du décret pouponnière qui a été pris par ma prédécesseure Catherine Vautrin en septembre pour améliorer le taux d'encadrement. 10 millions de plus pour renforcer les moyens de contractualisation entre l'État et les départements. Et 5 millions ont été mobilisés pour assurer la bonification du prêt de la Caisse des dépôts. Vous le savez, nous avons eu l'occasion déjà d'en parler. Je vous confirme par ailleurs que j'ai pu annoncer la généralisation du parcours coordonné renforcé de soins qui sera appliqué à l'ensemble de ces jeunes de l'ASE, qui permettra une meilleure prise en compte, un meilleur parcours de santé pour ces jeunes.
Et la loi, quand est-ce qu'on la vote, la loi transpartisane, là, pour les droits de l'enfant ?
Ces 20 dernières années, comme vous l'avez dit, le nombre d'enfants d'ASE a augmenté de 50%, dans une proportion croissante en établissement, alors que la natalité baisse.
Merci beaucoup, madame la ministre. Pour cette réponse, la parole est à présent Monsieur Emmanuel Morel pour le groupe GDR.
Emmanuel Morel, député du Val d'Oise, pour le groupe communiste.
Monsieur le Premier ministre, nous ne comprenons pas le silence de la France sur l'accord commercial passé entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne en juillet dernier. Il y aurait quand même matière à débat, tant les concessions invraisemblables accordées par Madame von der Leyen à Monsieur Trump s'apparente à ce qu'on pourrait appeler une capitulation en rase campagne. Je rappelle que l'Europe accepte que ses produits soient taxés à hauteur de 15%. Elle s'engage à acheter 750 milliards de dollars de produits pétroliers et gaziers. Et elle promet d'investir 600 milliards de dollars outre-Atlantique. C'est-à-dire que tous les instruments de défense commerciale qui avait été lentement élaborée à Bruxelles pendant 10 ans ont été abandonnés et c'est une très mauvaise nouvelle pour l'industrie européenne et singulièrement l'industrie française.
Je crois qu'en échange de tout ça, Ursula von der Leyen, elle a obtenu une baisse des tarifs douaniers américains sur les produits européens.
Alors on peut parler d'attractivité retrouvée, de réindustrialisation, de souveraineté économique, mais quand on voit ce que fait la Commission, franchement, il y a des questions à se poser et il y a une grande inquiétude. Inquiétude pour l'industrie, inquiétude aussi pour l'agriculture, au moment où nos paysans vont subir à la fois le projet Trump, mais aussi l'accord Mercosur, qui est un accord qui sort des traités, un accord dérogatoire, un accord avec une concurrence déloyale et un accord sur lequel la France est timide, oui timide, et même ambiguë. Alors je m'adresse à vous, mesdames et messieurs les ministres, la coupe est pleine.
Emmanuel Morel, député du Val d'Oise, du côté d'Herblay-sur-Seine, il a 52 ans, il est professeur de lettres modernes vacataire, c'est un ancien cadre du Parti Socialiste, figure de la gauche du Parti Socialiste, avec Marie-Noëlle Lienemann, il a cofondé la gauche républicaine et socialiste, ancien député européen, il siège aujourd'hui avec les communistes, et il pose une question donc sur cet accord entre l'Union européenne et les USA négocié par Ursula von der Leyen en juillet dernier. On écoute Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Emmanuel Morel, vous avez fait adopter récemment, à la quasi-unanimité des groupes politiques, une proposition de résolution européenne qui traite du sujet que vous venez d'évoquer. Et à bien des égards, le constat qui est posé par cette résolution est juste. Et nous l'avons toujours dit, personne ne sort gagnant d'une guerre commerciale parce que les droits de douane sont des impôts et en l'occurrence ce sont les classes moyennes, parfois les classes modestes américaines qui vont devoir s'en acquitter. C'est la raison pour laquelle tout au long de cette négociation menée par la Commission européenne avec les États-Unis, la France et son gouvernement ont tenu une posture très ferme en invitant la Commission à brandir ces instruments de défense commerciale. Le deuxième point que je voulais apporter en réponse à votre question, c'est que l'accord trouvé le 21 août dans les conditions dont chacun se souvient n'est qu'une étape et cette négociation se poursuit. En particulier, sous l'autorité du Premier ministre, le gouvernement continue de défendre l'exemption d'un certain nombre de produits des droits américains et en particulier les vins et spiritueux. Et nous appelons la Commission à renforcer les mécanismes de suspension automatique des concessions tarifaires qui ont été faites aux États-Unis, ainsi que l'introduction d'une clause d'expiration de ces concessions. Enfin et troisième point, sachons que, comme vous venez de le faire, appeler l'Europe à accélérer lorsqu'elle va trop lentement pour défendre la souveraineté industrielle de notre continent. Mais sachons aussi nous réjouir lorsqu'elle accélère. Et ça a été le cas par deux fois ces derniers temps. Le 7 octobre, la Commission européenne a proposé des mesures de protection très fortes sur la production d'acier européen. En doublant les droits de douane au-delà des quotas et en diminuant par deux la quantité des aciers qui entrent sur le territoire de l'Union européenne. Et puis hier, elle a pris des mesures de sauvegarde sur les ferroalliages qui vont permettre de sauver 900 emplois et 6 usines sur notre pays. Merci. Et c'est le fruit de la mobilisation du président de la République et du gouvernement.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Maxime Michelet pour le groupe UDR.
Maxime Michelet, député de la Marne.
Merci, madame la présidente. Madame la ministre, de pourri au royaume de l'audiovisuel public. Les dirigeantes de France Télévisions et de Radio France se sont concertées pour assigner CNews, Europe 1 et le JDD devant le tribunal de commerce de Paris pour dénigrement, grief constitutif de concurrence déloyale, selon elles. Cette action en justice contre des concurrents est tout bonnement sidérante. Elle trahit la fébrilité de l'audiovisuel public, fébrilité devant les futurs travaux de la commission d'enquête demandée par Éric Ciotti et dont notre collègue Charles Alloncle est le rapporteur. Fébrilité depuis que l'affaire Le Grand Cohen a exposé au grand jour les liens privilégiés entretenus avec la gauche. Fébrilité à l'idée de perdre les innombrables privilèges accumulés par la nomenclatura audiovisuelle. Fébrilité enfin face à l'émergence de lignes éditoriales indépendantes qui remettent en cause le monopole idéologique qu'entend exercer l'audiovisuel public afin de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit, selon les termes de Delphine Ernot. Avec cette action en justice, les présidentes de France Télévisions et de Radio France confirment être des militantes politiques. La plainte pour dénigrement ne manque d'ailleurs pas de sel. Et elle pourrait presque faire sourire si elle n'était pas réalisée aux frais du contribuable. En effet, France Télévisions et Radio France sont-ils seulement légitimes à se plaindre de ce supposé dénigrement quand l'audiovisuel public consacre aux frais du contribuable des heures entières à dénigrer et à caricaturer tout média qui ose différer de sa ligne idéologique ?
Le service public n'a pas le droit de se défendre. Maxime Michelet, député de la Marne, il a 33 ans. Il est docteur en histoire, secrétaire du proviseur du lycée Fénelon dans le 6e arrondissement de Paris. Il était au cabinet d'Éric Ciotti quand il était président des Républicains. Et il pose une question sur la plainte qui a été déposée conjointement par France Télévisions et Radio France contre les médias du groupe Bolloré. Plainte pour dénigrement.
Des revenus publicitaires. Cet avantage structurel est mis aujourd'hui au service d'une lutte idéologique. Elle doit cesser. Madame la ministre, en qualité de autorité de tutelle, avez-vous été informé de cette action en justice? Avez-vous été consulté? Avez-vous donné votre accord?
Et tout de suite, Rachida Dati qui va défendre France Télévisions et Radio France. Écoutez bien, mesdames et messieurs.
De la culture.
Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Michelet. Alors, vous avez raison, toutes les chaînes de télévision, privées comme publiques, sont soumises à une exigence de pluralisme dans leurs programmes. Mais il y a une exigence supplémentaire pour l'audiovisuel public qui est celle de l'impartialité. Et c'est tout le sens d'ailleurs de la réforme de l'audiovisuel public que j'ai souhaité porter, fondée sur le texte du président Lafond du Sénat et qui reste évidemment, sur laquelle il reste une lecture. Alors certains groupes privés ont pu considérer que cette exigence d'impartialité n'était pas remplie et l'ont fait savoir sur leurs antennes. Alors les présidents de France Télévisions et de Radio France ont estimé que ce traitement était de l'ordre du dénigrement et ont souhaité assigner les médias du groupe Bolloré devant le tribunal de commerce. Alors vous m'avez posé une question sur est-ce que j'étais informée de cette démarche. Cette démarche n'avait en aucun cas été concertée et encore moins approuvée par les tutelles. En l'état du droit, c'est leur liberté d'avoir choisi de s'engager dans cette voie. Mais je peux vous dire que même si l'usage républicain et aussi par respect de l'engagement des deniers publics dans cette procédure, les tutelles auraient dû être informées.
Oh putain, le lâchage en race campagne.
Ce que signifie l'impartialité, cette exigence d'impartialité du service public et la façon dont elle est mise en œuvre est évidemment pleinement légitime et c'est un débat que nous devons avoir. Mais ce sujet mérite largement mieux que la voie détournée de la judiciarisation.
Putain, pardon, excusez-moi, là franchement, courage France Télévisions et Radio France, vous n'êtes même pas soutenu par votre ministre de tutelle, alors que vous vous défendez, je trouve ça dingue.
Madame la Présidente, mesdames et
Kevin Mauvieux, député de l'Eure.
Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et de la Souveraineté énergétique. Après l'Espagne et le Portugal, sortis du mécanisme européen de fixation des prix de l'électricité, c'est maintenant l'Allemagne qui s'apprête à mettre plusieurs milliards d'euros sur la table pour baisser les prix de l'électricité et gagner en compétitivité. Pendant ce temps, en France, nous restons soumis aux pires règles de l'Union européenne, toxiques pour la survie de nos entreprises, de nos industries et pour le pouvoir d'achat des Français. La France produit l'électricité la plus propre et la moins chère grâce à son parc nucléaire. Pourtant, nous l'achetons au prix européen, tenant compte des pires productions, qu'elles soient intermittentes, au gaz ou au charbon. Les derniers chiffres sont indiscutables. La France poursuit sa désindustrialisation. Notre prix de marché de gros était pourtant notre seul avantage compétitif. Nous allons le perdre. Les entreprises qui bénéficieront du CISAF en Allemagne verront leur prix de l'électricité se rapprocher fortement du nôtre. Le faible avantage prix qui nous restera, que nous conserverons, sera bien insuffisant au regard du poids des normes et impôts que seul le Rassemblement national souhaite combattre ici en France. Vous nous répétez matin, midi et soir qu'on ne peut rien faire sans Frexit, bloqué par l'Union européenne. Je n'entends pourtant pas parler de Dutchxit ces derniers jours. Bref, les autres pays agissent et vous commentez. Seuls Marine Le Pen et Jordan Bardella ont le courage de vouloir sortir du mécanisme européen de fixation des prix de l'électricité. Et seuls Marine Le Pen et Jordan Bardella ont le courage de vouloir baisser la TVA de 20 à 5,5% sur les énergies, y compris sur l'électricité. Des solutions qui marchent immédiatement pour nos entreprises et pour les Français. Alors, Monsieur le Ministre, quand aurez-vous le courage de reprendre les idées qui marchent, celles du Rassemblement national, pour la France, pour les Français, au lieu de vous obstiner dans votre politique politicienne basée uniquement sur l'anti-RN plutôt que sur l'intérêt...
Kevin Mauvieux, député de l'Eure, il a 34 ans, il a été conseiller en assurance auprès de la BNP, il a quitté les Républicains en 2020 parce qu'il reprochait une trop grande proximité des Républicains avec les macronistes. Il a rejoint le Rassemblement national, il pose une question sur les tarifs européens de l'électricité. On écoute Roland Lescure.
...sérieux pour éviter les polémiques politiciennes qui plus est fondées sur des inexactitudes. Premier point, l'Allemagne ne sort en rien du marché européen de l'énergie. En rien. Deux, la raison pour laquelle l'Allemagne aujourd'hui envisage un mécanisme dont les détails sont loin d'être précisés pour soutenir son industrie, c'est justement parce que l'énergie française est extrêmement compétitive et parce que les industries françaises en profitent également, faisant des envieux outre-Rhin. Trois, la raison pour laquelle aujourd'hui l'énergie en France, l'électricité, est décarbonée et pas chère, nous le devons à nos anciens qui, il y a plus de 50 ans, ont lancé un programme électronucléaire ambitieux qui nous permet d'en bénéficier aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, il faut être très clair, il faut continuer. Et il faut continuer, je pense, avec un message lui aussi très clair, c'est qu'il est temps d'enterrer l'âge de guerre. Vous le savez, le nucléaire, c'est puissant, c'est pas trop cher. Ça permet de moduler la puissance électrique en fonction de la demande, mais ça prend du temps à construire. Et par ailleurs, il y a des offres plus flexibles, notamment du côté des énergies non renouvelables, qui permettent d'appuyer notre offre de production, notamment dans des territoires qui en ont besoin. Qui s'occupe des Outre-mer aujourd'hui ? On ne va pas mettre des réacteurs nucléaires dans tous nos départements d'outre-mer. Donc là, le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est que, un, il faut le reconnaître, la demande d'électricité n'est pas encore au rendez-vous. Il faut mettre le paquet sur l'électrification des usages. Et deux, du côté de l'offre, être pragmatique. Entendre un certain nombre de territoires qui nous disent, franchement, les ENR, c'est assez. Et d'autres qui souhaitent continuer à développer ces offres qui sont plus flexibles dans la construction. Pour simplifier, Le Premier ministre m'a demandé d'engager un travail sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. J'ai commencé à consulter un certain nombre de groupes, et vous le serez aussi, monsieur le député, de manière à ce qu'on ait une offre efficace qui permette de continuer l'industrialisation. Merci.
Merci, monsieur le député. Allez-y.
Merci. Bah écoutez, concrètement, vous avez résumé ma question, puisque j'ai jamais dit que l'Allemagne sortait de l'Union européenne ou du mécanisme européen. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas besoin d'en sortir, donc vous avez repris ce que j'ai dit. Je vous ai dit que le nucléaire était un avantage compétitif. Vous l'avez repris, c'est très bien, mais en réalité, vous ne faites toujours rien, vous commentez, et en attendant,
merci,
le train passe.
Monsieur le député. La parole est à madame Christine Le Nabour pour le groupe Ensemble pour la République.
Christine Le Nabour, elle est députée d'Ille-et-Vilaine.
Merci madame la présidente, madame la ministre, chers collègues. La semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées a débuté lundi. Comme chaque année, les organisateurs, l'ADAPT, la GFIP et le FIP, invitent à débattre, à faire se rencontrer les demandeurs d'emploi en situation de handicap, les entreprises, les politiques, les associations et la société civile. L'occasion de mettre tous les ans un coup de projecteur sur l'emploi des personnes handicapées, à l'image du Duo Day qui aura lieu demain. L'occasion d'interroger les dispositifs existants, de valoriser toutes les actions concrètes et les bonnes pratiques sur nos territoires. Malgré des avancées indéniables, le taux de chômage des personnes handicapées, bien qu'au plus bas aujourd'hui, demeure deux fois supérieur à celui de l'ensemble de la population. Force est de constater que le monde du travail est encore insuffisamment adapté et les organisations de travail trop peu sensibilisées et trop peu formées. Les discriminations et les préjugés persistent. Alors oui, continuons à en parler, continuons à sensibiliser, à former et à accompagner la société tout entière afin de répondre aux enjeux d'accessibilité qui dépassent le seul sujet des environnements de travail. N'oublions pas que c'est l'environnement inadapté qui génère le handicap. J'ai mesuré encore hier, lors du colloque que nous avons co-organisé avec Madame la Présidente à l'Assemblée, la volonté collective des acteurs d'aller ensemble plus loin et plus vite en matière d'accès à la formation et à l'emploi, de mieux se connaître, agir pour et avec les personnes handicapées, agir en complémentarité, mieux coopérer et mieux se coordonner. C'est encourageant. Madame la Ministre, nous avons été nombreux à constater et à contester la copie initiale du projet de loi de finances de 2026.
Christine Le Nabour, députée d'Ille-et-Vilaine, elle a 61 ans. Elle est ancienne professeure d'éducation physique auprès des jeunes en réinsertion. Elle est professeure de danse également, conseillère municipale de Vitré. Elle a été en charge de la jeunesse et de la vie associative. Elle est engagée dans l'aide aux étudiants et dans l'accès aux services publics pour les plus pauvres. Elle est coprésidente du groupe d'études sur le handicap et l'inclusion, d'où le fait qu'elle pose une question sur le sujet du handicap au gouvernement.
Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre chargée de l'autonomie et des personnes handicapées.
Oui, alors. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Christine Le Nabour. D'abord, je voudrais saluer votre action. Le colloque que vous avez organisé hier en est une illustration, mais vous avez bien d'autres initiatives tout au long de l'année, et notamment auxquelles j'ai pu participer dans votre circonscription. Je salue aussi l'engagement des parlementaires de manière générale sur les questions liées au handicap. Et merci de mettre un coup de projecteur, effectivement, sur cette semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, le gouvernement est complètement mobilisé sur cette question de l'emploi des personnes en situation de handicap. Vous l'avez dit, le chômage a beaucoup reculé, mais évidemment, on ne se satisfait pas de ce chiffre. On souhaite continuer à améliorer nos résultats. Le premier combat, c'est celui de l'image, de la représentation que peuvent avoir encore les employeurs vis-à-vis des personnes en situation de handicap. C'est un combat que nous menons tous collectivement. Une des illustrations, c'est celle du Duo Day à laquelle vous allez participer, à laquelle Madame la Présidente participe, ainsi que de nombreux parlementaires, et à laquelle tout le gouvernement va également participer. C'est une façon de découvrir et de changer le regard sur le handicap, et surtout de redire que les personnes en situation de handicap sont avant tout des personnes compétentes, fiables, motivées et engagées pour travailler dans nos entreprises. On a aussi un deuxième combat qui est celui de bien accompagner les entreprises avec des outils qui soient adaptés. On transforme le service public de l'emploi dans ce sens avec des outils comme l'emploi accompagné qui aide des périodes d'intégration de personnes, notamment avec des handicaps invisibles, des troubles de l'autisme, donc autant de challenges pour lesquels on accompagne les entreprises. S'agissant parlant du budget, je veux quand même redire que sur les lignes dédiées au handicap, on maintient bien les aides au poste pour les ESAT et pour les entreprises adaptées. On développe aussi des financements pour les solutions dédiées aux personnes en situation de handicap. Et maintenant, le budget est dans les mains des parlementaires. Et je sais pouvoir compter sur vous pour continuer à investir sur ce champ.
Merci, Madame la Ministre. La parole est à présent Madame Danielle Obono pour le groupe La France Insoumise.
Danielle Obono, députée de Paris.
Ce samedi, à l'occasion de la journée internationale du 25 novembre contre les violences faites aux femmes, des dizaines d'associations féministes, des syndicats et mouvements politiques, dont la France Insoumise, appellent à manifester avec et pour les femmes du monde entier. Les femmes victimes de violences machistes, de guerres, de famines, de régimes autoritaires ou d'états génocidaires, de gouvernements réactionnaires ou austéritaires. Nous participerons activement à ces mobilisations parce que les violences sexuelles et sexistes surviennent partout, tout le temps, sur nos lieux de travail et d'études, dans nos familles, l'espace public, les établissements de soins, les commissariats, dans tous les milieux sociaux et professionnels, à l'intersection de multiples oppressions. Et parce que face à ces violences de masse systémiques, votre gouvernement est en dessous de tout. En 2024, en France, 122 600 personnes ont été victimes d'infractions sexuelles. 85% étaient des femmes. Mais alors que ce nombre a augmenté de 7%, cette année, 70% des associations subissent une baisse de financement qui met en péril leur fonctionnement. Le 29 octobre, jour du vote au Sénat de la loi introduisant le consentement dans la définition pénale du viol, deux policiers étaient accusés d'avoir violé une femme dans un dépôt du tribunal de Bobigny. Une affaire qui s'ajoute aux 429 cas recensés par Disclose de violences sexuelles commises par des policiers et gendarmes entre 2012 et 2025. En 10 ans, le ministère de l'Intérieur n'a pris aucune mesure structurante à cet effet. Par contre, en poste depuis à peine 2 mois, le ministre Nunez a annoncé déposer plainte contre 4 députés insoumis pour avoir dit que la police tue et contre un humoriste pour avoir dénoncé les violences policières. Assez d'impunité pour les agresseurs, assez de répression budgétaire pour les victimes. Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour éradiquer ces agissements intolérables dans la police ?
Danielle Obono, députée de Paris, elle a 45 ans, elle a été bibliothécaire à la médiathèque Marguerite Yourcenar dans le 15e arrondissement de Paris, elle est née à Libreville, elle est militante altermondialiste. Depuis qu'elle a 20 ans, elle a été à la LCR et au NPA avant de rejoindre la France Insoumise. Elle a été victime d'attaques racistes par le magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles en 2020. Elle pose une question sur les violences faites aux femmes, on écoute Laurent Nunez.
Députée, Madame la députée Obono, d'abord je veux vous rassurer, je continuerai à porter plainte chaque fois qu'on dira que la police tue ou qu'on comparera les forces de l'ordre à une organisation terroriste. Je continuerai. Sur le sujet très grave que vous abordez des violences sexuelles, je peux vous confirmer qu'évidemment c'est une priorité du gouvernement, c'est une priorité forte du gouvernement. Et pour la partie qui est la mienne, je puis vous rassurer de la mobilisation complète des forces de police et de gendarmerie pour investiguer en judiciaire quand il y a des violences sexuelles, pour mieux accueillir les femmes dans les commissariats, dans les brigades de gendarmerie. Nous avons mis en place des dispositifs d'accueil discret, des dispositifs de plainte hors les murs quand il y a les faits les plus graves comme des viols, et nous allons évidemment continuer ces actions avec beaucoup d'efficacité. Croyez bien que je suis, comme ministre de l'Intérieur, mais comme l'ensemble du gouvernement, très déterminé à être aux côtés des femmes qui sont victimes de violences sexuelles, pour prévenir et pour réprimer. Vous avez abordé la question, et vous avez utilisé le mot systémique, vous avez abordé la question très grave, et vous avez raison, Madame la députée, d'un certain nombre de femmes qui ont été présentes dans des commissariats, dans des dépôts, et qui ont été victimes de violences sexuelles. Il y a effectivement une étude qui a été rendue publique très récemment, d'ailleurs dont les auteurs eux-mêmes appellent à l'analyser avec la plus grande prudence. Mais vous avez raison, il y a eu quelques cas très rares qui se sont déroulés. Et systématiquement, nous avons été d'une fermeté exemplaire. Le cas que vous avez cité au dépôt du tribunal judiciaire de Bobigny, je veux rappeler que ces policiers ont été immédiatement suspendus et qu'ils sont actuellement écroués. Nous répondons avec beaucoup de fermeté sur ces cas qui ne sont pas des cas systémiques, comme vous le dites, mais des cas heureusement minoritaires. Et nous serons toujours intraitables avec ceux qui commettent ce type de violence sexuelle et qui portent un uniforme. C'est inacceptable, mais ça n'est pas une généralité.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame la députée.
Votre déni des violences patriarcales systémiques montre à quel point vous êtes incapable de faire face à ce mouvement. Et il manque toujours 3 milliards pour un budget de lutte contre les violences.
Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Marie-Noël Battistel pour le groupe socialiste.
Marie-Noël Battistel, députée de l'Isère.
Merci Madame la Présidente. Notre groupe s'associe à l'hommage que vous avez rendu au député socialiste André Chardin-Agor. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Madame la ministre, en cette semaine de congrès des maires, nous accueillons depuis hier de nombreux élus de nos territoires dans les tribunes de nos assemblées que nous saluons. Au terme d'un mandat qui aurait été particulièrement éprouvant, ils réaffirment chaque jour leur engagement pour la République de proximité. Alors que le budget dont nous débattons les inquiète au plus haut point et que la gestion des collectivités locales est exemplaire, ils nous demandent de ne pas les priver des moyens indispensables pour assurer les services publics du quotidien et préparer l'avenir. En tant que présidente de la commission permanente du Conseil national de la montagne, permettez-moi d'évoquer en particulier les collectivités de montagne en première ligne face au dérèglement climatique. Avec de nombreux secteurs économiques basés sur des modèles de pluriactivité mêlant tourisme, agriculture, services et artisanat, leurs économies reposent sur des équilibres souvent fragiles qu'il nous faut accompagner vers une économie capable de diversifier ses activités, de consolider ses emplois, préserver son environnement fragile et construire un tourisme toute saison durable. La transformation de ces territoires demande du temps, des moyens et un accompagnement de l'État. C'est pourquoi la mise en place d'un véritable fonds de transition dédié aux zones de montagne devient indispensable pour engager ces mutations sans déstabiliser davantage des modèles déjà sous pression. Il nous faut donc un deuxième plan Avenir Montagne, Madame la Ministre, pour répondre pleinement aux besoins de nos collectivités montagnardes dont les aménités positives sont une richesse pour la France. Madame la ministre, je ne vois rien de tel dans le projet de loi de finances. Comment le gouvernement entend-il s'engager aux côtés...
Marie-Noëlle Battistel, députée de l'Isère, elle a 69 ans. Elle a été directrice d'une société de transport de voyageurs. Elle est ancienne maire de La Salle en Beaumont, un très joli village de 350 habitants près de Grenoble. Elle est coprésidente du groupe d'études sur la montagne. Elle pose une question sur les territoires montagneux.
Mesdames et messieurs,
il y a des montagnards dans le chat.
Les députés, madame la députée Marie-Noëlle Battistel, je vous remercie de votre question qui porte sur un sujet où le gouvernement est extrêmement engagé, avec vous d'ailleurs, parce que je sais que votre engagement en faveur d'une montagne forte et vivante, avec une économie qui soit à la fois une économie agricole, mais aussi une économie touristique. Et je veux saluer aussi le travail de votre collègue Vigier dans l'Association nationale des élus de montagne. Nous avons travaillé ensemble depuis un an. Je me rappelle l'engagement de l'État très conséquent sur une situation d'urgence sur l'Alpe du Grand Serre. Et nous avons depuis, vous le savez, Madame la députée, continue à mettre en œuvre le plan Avenir Montagne, qui comprend 170 millions d'accompagnement des projets de la montagne, 62 chefs de projet mis à disposition par l'État pour aider les élus de la montagne à définir leur avenir en prenant en compte la transition écologique. Donc l'État est aux côtés des collectivités de montagne. Vous le savez, nous aurons d'ailleurs très prochainement la nouvelle réunion du Comité national de la montagne que l'État a beaucoup défendu dans la loi de simplification, vous vous en rappelez. Et je sais que l'ensemble du gouvernement, parce que nous sommes plusieurs collègues à porter ce sujet, l'ensemble du gouvernement sous la houlette du Premier ministre, nous sommes vraiment à vos côtés pour coopérer pour une montagne forte et vivante où chacun peut avoir envie de vivre et peut vivre dignement.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Avant de lui donner la parole, je suis heureuse en votre nom à tous de souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle à Monsieur Lionel Duparet, devenu député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire.
Salut Lionel ! Bienvenue Lionel ! C'est sa première question au gouvernement.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé de l'Industrie. Il y a 20 ans, lorsque j'étais étudiant ingénieur à l'École des arts et métiers à Cluny, on nous a enseigné et fait pratiquer le tournage, le fraisage, la forge, la fonderie et la mécanique, tout en y associant les nouvelles technologies, mais aussi inculquer la fierté française pour son industrie. J'ai connu en tant que salarié l'OPA hostile de Mittal sur Arcelor en 2006. Et en 2014, salarié et militant syndical, j'ai assisté à la vente forcée d'une grande partie d'Alstom. Dans les deux cas, une perte de souveraineté française et européenne. Monsieur le ministre, vous avez récemment rappelé avec force l'importance d'assumer une forme de préférence européenne pour mieux protéger nos filières industrielles, puisque certains pays tiers non européens subventionnent massivement, imposent des normes bien plus faibles, appliquent leurs lois au-delà de leurs frontières. Sans oublier, bien entendu, la folie fiscale autour du PLF 2026, alourdissant davantage la charge qui pèse sur nos entreprises, qui assument déjà l'une des fiscalités les plus lourdes en Europe, au moment même où elles doivent investir, innover, recruter pour résister et se développer sur le marché mondial. Aucune grande entreprise ne s'est créée sans que, sur son propre sol, elle ne trouve un équilibre économique, des soutiens, un terreau fertile à son développement. Oui, la valeur qui se crée doit être partagée. Mais si nous asséchons la création de la valeur, nous n'aurons plus que nos larmes à partager. Aussi, je vous demande, comment le gouvernement entend-il mettre en cohérence...
Lionel Duparey, député de Saône-et-Loire, il a 44 ans, il a été ingénieur auprès d'Alstom sur le site de Creusot. Il est le suppléant de Sébastien Martin, ministre de l'Industrie. Et devinez à qui il pose sa question ? À Sébastien Martin, le ministre de l'Industrie.
Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'Industrie.
Oh, c'est une drôlement bonne question que vous me posez, monsieur le député.
Monsieur le député Lionel Duparey, vous l'avez dit, monsieur le député, le monde a changé. Et au niveau européen, les choses changent. Et elles changent sous l'impulsion de la France. Parce que lorsque, aujourd'hui, sur l'acier, vous avez en surproduction asiatique l'équivalent de 5 fois le marché européen, il est nécessaire, et c'est ce qu'a obtenu la France, que des clauses de sauvegarde se mettent en œuvre pour protéger notre industrie européenne. Comme elle l'a fait, Jean-Noël Barrot l'a rappelé hier, sous l'impulsion du gouvernement français, pour les ferroalliages. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler la mobilisation de Virginie Duby-Miller, Émilie Bonnivard, Marie-Noël Battistel et Olga Givernet sur ces sujets, encore hier au téléphone avec mes équipes. Il faut se protéger, mais il faut aussi faire ce que font les autres continents, c'est-à-dire la préférence européenne, c'est-à-dire avoir une part de contenu local. Et si nous affirmons bien évidemment 2035 et des ajustements possibles, il doit y avoir en face un contenu local et une valeur ajoutée forte dans nos produits. Il doit y avoir un accès au soutien public favorisé dès lors que l'on parle de préférence européenne. Il doit y avoir un accès aux subventions favorisées dès lors qu'il y a de la préférence européenne. Mais vous l'avez dit aussi, il faut une trajectoire budgétaire, une trajectoire fiscale, lisible pour nos entreprises. Et nous avons décidé de reprendre la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Et alors que certains hurlent à droite ou à gauche, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche...
Personne ne hurle. Personne ne hurle.
...ensemble pour voter 34 milliards d'impôts supplémentaires qui pèseront sur nos entreprises. Et lorsque je les entends aussi parler d'énergie...
Alors, tout le monde s'en branle et lui il fait « j'entends les hurlements ».
En 2017, Madame Marine Le Pen rappelait que le nucléaire était une énergie dangereuse. La constance, elle est sur ses bancs, certainement pas à l'extrême droite et à l'extrême gauche lorsqu'il s'agit de défendre l'industrie française et européenne.
Oh, il est chafouin, le ministre de l'Industrie.
Ministre, la parole est à présent Madame Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologique.
Marie-Charlotte Garin, députée de Rhône. Du Rhône, pardon, du
Merci
côté de Lyon.
Madame la Présidente, Madame la Ministre des Comptes Publics, il y a une réalité que personne ne peut contester. En France, en 2025, au moins 3000 enfants dorment dehors. À la veille de la Journée internationale des droits de l'enfant, j'ai honte. Honte parce que ça n'est pas la faute à pas de chance. Honte parce qu'année après année, vous décidez que cette question n'est pas prioritaire. Chaque soir, des milliers d'enfants n'ont pas de place pour être mis à l'abri. Alors vous allez nous expliquer que le nombre de places d'hébergement d'urgence n'a jamais été aussi élevé. C'est vrai. Ce qui est vrai aussi, c'est que 31 gamins sont morts de la rue en 2024. Ce qui est vrai, c'est que les besoins explosent, que les parents s'entassent dans des chambres d'hôtel, que des familles dorment dans leurs voitures, que des profs occupent des écoles et que les associations font le tri en fonction de la vulnérabilité. Chaque année, c'est le même sketch. À l'Assemblée comme au Sénat, on vote des moyens en plus. Et chaque année, ces crédits sont retirés par 49-3. Jusqu'au moment où, les premiers morts de la rue arrivant, votre humanité revient à vous, ou c'est votre inaction peut-être qui vous fait honte. Alors là, vous y allez à grand renfort de coups de communication avec des rallonges budgétaires éphémères. Ça ne marche pas, Madame la Ministre. Ça ne marche pas parce que les associations qui mettent à l'abri les personnes à la rue ont besoin de moyens et de prévisibilité. Ça ne marche pas parce que les chiffres du sans-abrisme des enfants explosent. Vous nous parlez de lignes budgétaires, les associations nous parlent de lignes de vie. Vous pouvez décider d'un virage, un vrai, dire « on ne veut plus d'enfants à la rue », dire « on arrête de bricoler ». Évidemment que la solution se trouve du côté de l'accès au logement social et de la régularisation. Mais face à l'urgence extrême, il faut augmenter nos capacités d'hébergement d'urgence.
Marie-Charlotte Garin, députée du Rhône à Lyon, elle a 30 ans. Elle a travaillé pour les écologistes au conseil municipal de Lyon. Elle a été engagée dans une association de solidarité pour les sans-abri et les réfugiés. Elle a également été engagée à Handicap International et elle a été élue meilleure députée selon un baromètre, un sondage réalisé auprès de Jean Massier.
Vous engagez-vous à maintenir ces financements dans la copie finale du budget?
Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Stéphanie Rist, ministre de la Santé.
Stéphanie Rist, donc, qui va répondre sur les enfants à la rue.
Merci, Madame la Présidente, Madame la députée Garin. Vous interrogez le gouvernement sur la situation des enfants sans domicile. C'est un sujet d'une tristesse extrême qui nous oblige collectivement parce qu'il touche à ce que notre République a de plus précieux, la protection de nos enfants. Depuis 2017, avec le plan Logement d'abord, le gouvernement a doublé le budget qui est consacré à l'hébergement d'urgence pour atteindre plus de 3 milliards en 2025. Concrètement, l'an dernier, 27 696 personnes ont été prises en charge, dont 13 353 enfants. Mais le gouvernement ne se satisfait pas d'une solution qui ne viserait qu'à traiter l'urgence. Elle fragilise les parcours éducatifs et sociaux des plus jeunes. C'est pour cela que nous déployons dès 2026 un plan d'1,2 million pour renforcer les équipes d'intervention sociale et recruter des coordinateurs dédiés au suivi des mineurs s'agissant de leur scolarisation, de leur santé, l'accès aux droits, la continuité éducative. Madame la députée Garin, j'ai bien conscience de vous répondre avec des chiffres. Et derrière ces chiffres, il y a un objectif clair. Aucun enfant ne doit dormir à la rue dans notre pays. Des drames existent encore. Malheureusement, nous n'aurons pas l'occasion d'aborder, je le pense, ce sujet en séance. Je sais que vous êtes très investi sur cette question, votre département étant particulièrement concerné, et que vous avez déposé des amendements avec vos collègues du groupe écologiste et social, en particulier sur cette question du sans-abrisme. Madame la députée, vous nous trouverez à vos côtés, car protéger nos enfants est l'un des fondements même de notre pacte républicain. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Géraldine Bannier pour le groupe démocrate.
Géraldine Bannier, députée de la Mayenne.
Ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture. Madame la Ministre, nos agriculteurs sont vent debout contre le traité de libre-échange avec le Mercosur. Les citoyens s'interrogent. Il y a eu sur ce traité plusieurs expressions dont certaines ont pu semer le trouble et laisser penser que la France pourrait se satisfaire de cet accord en l'état, notamment sur le volet agricole. La France est certes une puissance exportatrice, elle a besoin de ces accords, mais à la condition qu'ils soient équilibrés, respectueux de nos producteurs, de nos normes sanitaires et environnementales. En premier lieu, nos filières de production, en particulier l'élevage, ont besoin d'être protégées. Des garanties bilatérales sont inscrites dans l'accord avec la clause de sauvegarde spécifique proposée par la Commission européenne. Cela ne paraît pas suffisant à ce stade. De fait, il faut que la France puisse être en mesure de l'activer facilement. C'est la survie d'un modèle alimentaire de grande qualité, assuré par des agriculteurs passionnés, exigeants, souvent injustement décriés, qui est en jeu. En second lieu, des mesures miroirs sont indispensables pour éviter d'importer ce que nous ne voulons pas voir dans nos assiettes. Hormones de croissance, antibiotiques, farines animales notamment. Il faut aussi des contrôles tout au long de la chaîne de production et d'importation pour vérifier, pour rassurer. Or, capacité de contrôle aux frontières de l'Europe et des États membres, clause de sauvegarde renforcée, aide au secteur agricole français, tout cela apparaît à ce stade insuffisamment protecteur. Enfin, Madame la Ministre, la France ne doit pas être la seule à mener ce combat. Nous devons activement continuer à rechercher le soutien de nos partenaires européens en ce sens. Pouvez-vous nous confirmer que la France continuera de s'opposer à cet accord en l'état? Quelles orientations défendrez-vous en matière de clauses de sauvegarde et de contrôle? Quelle démarche la
Géraldine Bannier, députée de la Mayenne, elle a 45 ans, elle est professeure agrégée de lettres classiques. Elle a été colistière de Bruno Retailleau, dit donc, pour les élections régionales dans les Pays de la Loire en 2015. Elle est connue pour être engagée dans la défense du marché du livre, enfin du secteur du livre. Et elle était également engagée contre le CETA. Elle pose une question sur le Mercosur. On écoute la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard.
Je veux clarifier un point qui semble vous préoccuper. la semaine dernière à Toulouse devant les agriculteurs que j'ai reçus, qui ont été ensuite reçus par le président de la République. L'expression a été très claire. Le projet d'accord tel qu'il a été signé il y a un an, contestable et sur le fond et sur la forme, est inacceptable. Cela a été dit extrêmement clairement. Et il inquiète légitimement non seulement les agriculteurs et le secteur agroalimentaire, mais aussi l'ensemble du corps social et le Parlement dans son intégralité. Alors, dans l'hypothèse, et la France n'est pas isolée, un certain nombre de pays ont manifesté les mêmes inquiétudes. Pour autant, si l'accord devait être signé, je rappelle quand même à chacun d'entre vous que l'Union européenne est constituée de 27 pays et que la France n'a pas autorité à décréter la position de telle ou telle nation membre de l'Union européenne. Donc si cet accord devait être in fine accepté, il est inacceptable en l'état et c'est la raison pour laquelle la France se bat avec une énergie démultipliée sur trois points fondamentaux. D'abord la clause de sauvegarde parce que plusieurs filières sont très exposées par ce projet d'accord. Le bœuf, la volaille, le sucre, l'éthanol et d'autres substances, d'autres productions. Donc une clause de sauvegarde qui limite les désordres en matière de déséquilibre de marché. Ça, c'est un point fondamental.
Elle est clairement en train d'ouvrir la porte à une adoption du Mercosur, hein. Clairement. On l'avait compris dans les propos d'Emmanuel Macron la semaine dernière.
On en vérifie l'application, l'applicabilité, si j'ose dire. Deuxième sujet, et c'est peut-être le point sur lequel les agriculteurs sont le plus regardants, les mesures miroirs, la réciprocité des normes. On ne peut pas exiger de nos agriculteurs d'être les plus vertueux du monde au prix d'intenses efforts et de tolérer des substances interdites sur le sol de l'Union européenne. Ça, c'est fondamental. Ce sont les mesures miroirs. Il faut avoir un haut niveau d'exigence. Et enfin, les contrôles, parce que toutes les mesures ne valent que si on peut en contrôler l'efficacité beaucoup, sur le terrain.
Merci, Madame la Ministre. La séance de questions au gouvernement est terminée. La séance reprendra à 15h. Elle est suspendue.
Suspension de séance à l'issue de cette séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale sous les vivas du chat de Jean Massier, évidemment. Une séance courte. La séance du mercredi est toujours plus courte. On a eu la réponse, putain la vache, pardon je m'en remets toujours pas, mais Rachida Dati qui se fait coincer par l'extrême droite sur la plainte de France Télévisions et Radio France contre les médias Bolloré et qui décide de les lâcher en race campagne en disant j'ai pas été consulté, alors ok, c'était pas obligatoire que je sois consulté, mais il aurait quand même fallu que je sois consulté, sous-entendu je me serais opposé, clairement, c'est ce qu'elle dit. Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris, n'a pas envie de s'engueuler avec les médias Bolloré maintenant. Donc, elle lâche en race campagne le service public audiovisuel. Ok. Ok, d'accord. Alors que le service public la soutient à fond. Mais ça, on s'en fout, c'est la ministre de tutelle. C'est la ministre de tutelle de l'audiovisuel public. C'est littéralement son job de défendre ce sur quoi elle a la tutelle. C'est quoi l'histoire de la plainte des médias en deux mots ? Bah, en deux mots, les médias Bolloré ont mené une campagne pendant plusieurs semaines contre Radio France et France Télévisions, les accusant de gauchisme, etc., de dérives idéologiques dans leurs programmes, leurs humoristes, leurs journalistes. Rappelez-vous l'affaire avec Patrick Cohen, rappelez-vous l'affaire avec Thomas Legrand, etc. Et France Télévisions et Radio France ont décidé de se défendre en justice, en portant plainte pour dénigrement, contre les médias Bolloré. Voilà, la plainte a été annoncée hier. Il y aura peut-être un procès, on verra. Et voilà. Est-ce que les ministres sont au courant des questions en avance ? Pourquoi ont-ils préparé leurs réponses aussi vite ? En fait, les députés n'ont pas l'obligation de donner leurs questions avant au gouvernement. Les députés sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Tu as des députés qui vont donner leurs questions au gouvernement avant la séance parce qu'ils soutiennent le gouvernement. Ils ne sont pas là pour le piéger, donc ils préviennent le gouvernement qu'ils vont lui poser une question, machin. Les autres députés, les députés d'opposition notamment, ils peuvent, s'ils le souhaitent, garder leurs questions secrètes et la dévoiler au moment de la séance devant tout le monde, vous découvrirez bien. Ils peuvent aussi, ça se fait, donner le sujet de leur question, pas forcément le contenu, à la limite on s'en fout un peu, donner le sujet de leur question, j'ai l'intention de poser une question au gouvernement sur tel sujet aujourd'hui. Et il y a certains députés qui le tweetent d'ailleurs,
Il y a certains députés qui annoncent publiquement « Retrouvez-moi cet après-midi en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier, je vais poser une question au gouvernement sur tel sujet, machin ». Du reste, le gouvernement peut préparer des réponses sur les questions qu'il connaît, mais le gouvernement, il peut aussi avoir un peu de nez et se douter des questions qu'on va lui poser. Il n'y a pas beaucoup de mystère. L'actualité politique, elle est connue. Les sujets qui font la une, ils sont connus. Les députés qui vont poser des questions sont connus. Donc, les ministres peuvent en déduire qu'il y a très forte chance que le député machin, comme par hasard, il me pose une question sur tel sujet, puisqu'on est en plein dedans, puisque le machin et tout. Donc, le ministre peut préparer une petite fiche de réponse avec des éléments chiffrés pour avoir quelque chose à répondre aux députés. Voilà comment ça marche. Le but, c'est d'avoir une réponse, pas de poser une colle. Ça dépend, ça dépend. Il y a des députés d'opposition qui posent des colles au gouvernement et qui ne disent rien au gouvernement avant la séance, qui ne veulent pas que leurs questions soient connues, ils n'en ont rien à foutre. Ils sont en mode, moi, j'aime pas le gouvernement, j'ai envie de le censurer de toutes les manières. Je ne suis pas là pour lui filer un coup de main, donc je lui poserai une question. Il a intérêt à répondre. Le problème, c'est que si tu poses une question précise sur un sujet précis, par exemple sur un dossier qui concerne ta circonscription, une fermeture d'usine, un truc comme ça, bah, ce serait dommage que le ministre il ait juste rien à te répondre parce qu'il n'a rien préparé. Donc parfois, les ministres disent aux députés « Vous devriez nous donner vos questions avant parce que ça nous permet de préparer des réponses. Nous, on veut vous répondre, on veut vous apporter des éléments chiffrés de l'action du gouvernement. » Donc voilà, parfois les députés se disent « Non, mais c'est quand même mieux que j'ai une réponse, donc vas-y, je lui file ma question ou à minima le sujet de ma question et vas-y, il me répondra quoi. » Les questions ne sont pas forcément connues, mais qui va parler, c'est connu avant la séance. Oui, qui va parler, c'est connu avant la séance. Les orateurs sont connus. Combien de temps à l'avance ? C'est le matin ou la veille. C'est le matin ou la veille qu'on connaît ce qu'on appelle la feuille jaune. Voilà. Parfois, ils ne posent pas vraiment de questions aussi, juste ils amènent un sujet sur la table. Oui, tu as raison, les députés n'ont pas l'obligation de poser une question. Ça s'appelle la séance des questions au gouvernement. A priori, on est là pour poser des questions. Mais les députés sont libres, ils ont 2 minutes de temps de parole, ils ont le droit de faire un plaidoyer de 2 minutes. Qui vaut question. Parce que dans l'absolu, un plaidoyer, on peut y répondre. Donc, le député prend le micro, il dit « Ouais, le gouvernement fait que de la merde, il n'y a pas de question. Juste, je vous dis que vous faites de la merde, vous êtes à chier, machin, machin, machin. » Bon, bah, le ministre, il prend le micro, il répond. Je ne suis pas d'accord avec vous. On est engagé là-dessus, on fait ça, on a mis tant d'argent, le gouvernement est mobilisé, on a fait passer ça et tout. Bon, bah voilà. Quel est l'objectif de ces séances et y a-t-il un impact identifié par ces QAG ? L'objectif de ces séances, c'est que les gens qui nous gouvernent nous rendent des comptes. C'est ça le but. Les députés qui posent des questions sont des représentants du peuple par la voie de l'élection. Ils sont légitimes à demander des comptes au gouvernement sur son action ou son inaction. Donc, à quoi ça sert ces séances ? Ça sert à ce que le gouvernement rende des comptes au peuple, dise ce qu'il fait, l'explique, l'argumente, et ça vient nourrir l'ensemble du travail parlementaire. Il ne faut pas chercher une utilité, disons, immédiate. C'est une séance de questions-réponses. C'est un peu comme un entretien d'évaluation que tu peux avoir dans ton boulot avec ton manager. Tu fais un point, il te pose des questions, tu lui réponds. Tu défends ton taf. Voilà. Est-ce que c'est utile ? Bah, ça fait partie d'un processus global dans la relation avec ton employeur, sur ton travail, etc. Il y a aussi des questions écrites, mais on n'en parle jamais. Oui, les questions écrites, personne n'en parle. C'est dommage parce qu'effectivement, c'est assez intéressant. Les députés ont la possibilité toute l'année d'envoyer des questions écrites au gouvernement. Qui doit répondre par écrit, et la question et la réponse sont publiées au journal officiel. Et croyez-moi, les députés, ils s'en servent. Je connais même des députés qui floudent. Ils floudent la boîte mail du gouvernement avec plein de questions, sur plein de sujets, d'actualité, pas d'actualité, sur des dossiers, sur des machins, des situations spécifiques, machins, etc. Et le gouvernement répond. Est-ce qu'il y a un délai pour répondre aux questions ? Aux questions écrites ? Alors, il n'y a pas de délai pour répondre aux questions écrites, ce qui pose un problème parce que les députés étant très nombreux et ils posent beaucoup de questions, les ministres mettent souvent beaucoup de temps, pour ne pas dire trop de temps, à répondre. Alors, il y a des engagements qui sont pris à chaque fois par le Premier ministre qui dit aux députés, mesdames et messieurs les députés, je m'engage à ce que notre gouvernement fasse preuve de diligence dans la réponse à vos nombreuses questions écrites. La réalité, c'est que t'es pris par le taf et que t'as pas le temps. T'es juste rincé, quoi. Moi, je me souviens, quand je bossais au ministère, on avait des questions écrites. Il y a un logiciel qui traite les questions écrites et tu prépares les éléments de réponse et tout. On avait des questions écrites qui nous étaient posées sur un dossier qui avait déjà fait l'objet du vote d'une loi depuis qu'elle a été publiée, la question. Donc du coup, tu fais « Mais en fait, du coup, je réponds quoi à la question ?» On a littéralement voté une loi, on en a parlé pendant 3 mois, on a déjà répondu 1000 fois. Bon, bah tu réponds. Tu fais une réponse, conformément à la loi, machin. Tiens, voilà, votre demande est satisfaite, monsieur le député. Et ça redescend dans les bureaux de l'administration et des fois, les remontées n'existent pas. Oui, par ailleurs aussi. Non, mais c'est un bordel. Puis ça prend un temps fou, putain. C'est les membres des cabinets ministériels qui s'occupent de répondre aux questions écrites. Ils ont tellement pas le temps et ils font ça à 2h du mat en mode « vas-y, je vais répondre à 10 de questions ». Ça, ce sera toujours fait. Et en fait, t'es giga en retard et les questions, elles ont 3 mois et t'es en mode « putain ». En plus, les députés, ils te posent des questions sur des points extrêmement précis. Donc, tu dois faire redescendre dans les services, effectivement, pour avoir des éléments chiffrés, matériels, etc. Ça repart dans les préfectures et tout. Enfin, c'est fatigant. Mais bon, t'as un traitement automatisé. Enfin, c'est pas automatisé, c'est un traitement par des fonctionnaires et par des conseillers, etc., qui s'occupent de te répondre. Moi, je me souviens, quand j'ai écrit mon livre, j'ai fait des envois de mon bouquin. On fait toujours ça quand on sort un livre, on envoie le livre à tous les médias, par exemple, à tous les journalistes, machin et tout, en espérant qu'ils t'interviewent et qu'ils t'invitent, quoi. Et je l'ai envoyé aussi à pas mal de politiques. Et il y a des politiques qui m'ont répondu, genre 4 mois plus tard, en disant « J'ai reçu avec un vif intérêt votre livre, je vous remercie pour cet envoi et je tiens à vous affirmer de ma totale mobilisation sur les sujets de la jeunesse. J'ai par ailleurs... » Et là, il commence à me faire la liste de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Ok. Je t'ai juste envoyé mon livre, hein. T'étais vraiment pas obligé de me répondre. Moi, j'attendais pas un courrier, hein. Tout va bien. C'est pas grave. Tu peux nous rappeler vite fait ton parcours en cabinet ? Moi, j'ai bossé à la mairie de Paris pour l'adjointe de Bertrand Delanoë à l'époque, chargée des affaires scolaires. Puis, j'ai travaillé à la mairie du 20e arrondissement de Paris, au cabinet de la maire, pour les affaires scolaires et périscolaires, pour les droits des femmes et pour la mémoire et les anciens combattants. J'ai bossé au cabinet du président de la Seine-Saint-Denis, conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Et ensuite, j'ai bossé au cabinet de la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, Marisol Touraine. J'écrivais ses discours. C'est ça mon parcours en cabinet. Après, je me suis barré, je me suis lancé sur Twitch. Mais c'est ça mon parcours en cabinet. D'ailleurs, hier soir, j'étais à une petite réception à la Sorbonne à Paris, parce que c'était l'anniversaire des 20 ans du master que j'ai fait, qui est un master qui forme les collaborateurs de cabinet. C'est une formation qui existe, hein, qui existe toujours d'ailleurs, un master 2. Et du coup, voilà, donc j'avais un pote de promo qui était là, qui a bossé à la mairie de Dijon, qui a bossé au gouvernement, qui a bossé au Sénat, etc. Tous mes potes de promo, on est très très proches les uns des autres. Il y en a encore qui sont en cabinet aujourd'hui. Moi, c'est plus mon cas, mais il y en a qui ont continué la carrière. Et du coup, j'ai revu mes profs et tout à l'ancienne. Du coup, j'ai revu Bastien François, qui était directeur de l'UFR et directeur du master, que j'aime beaucoup, qui a écrit d'ailleurs les bouquins sur la 6e République dans les années 2000. Et du coup, j'ai discuté avec Bastien et je lui posais des questions sur ils sont comment les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui qui font le métier de collaborateur de cabinet, en tout cas qui postulent pour faire un master 2. Et il m'a dit, ils sont chiants. Il m'a dit, ils sont trop chiants. Ils sont complètement dépolitisés, enfin pas tous, hein, mais ils sont giga dépolitisés, ils sont vraiment, c'est vraiment du gloubi-boulga, je sais pas, ils ont même pas de passion pour la chose politique. Alors que nous, à notre époque, on était tous engagés. On avait tous des caps très clairs, des idéologies, des machins. Enfin, on savait pourquoi on voulait faire collaborateur de cabinet. On voulait faire de la politique, on voulait fabriquer, on voulait se battre pour nos idées et tout. Et il me dit non, aujourd'hui, c'est vraiment des professionnels. Hyper carré, gentil comme tout, très compétent au demeurant, mais alors franchement pas engagé, quoi. Dans le sens, avec une flamme intérieure qui donne envie de faire les choses, quoi. Voilà, bah c'est ce qu'il m'a dit. c'est ce qu'il m'a dit. Peut-être qu'il est saoulé. Il m'a dit non, à un moment, il m'a avoué, il m'a dit non, mais en même temps, je suis proche de la retraite, peut-être que ça me saoule, hein, c'est possible. Je suis peut-être fatigué. J'en ai vu des générations, ça fait 20 ans que je forme des collaborateurs de cabinet. Donc voilà. Le fameux, c'était mieux les anciens élèves de tous les profs. Si ça se trouve, il a dit ça pour être gentil avec moi. Non, mais toi, t'as... Ah non, votre génération, Jean, c'était cool. Pourtant, on se marrait. Il y avait des débats en cours et tout, on s'engueulait, c'était bien. On se mettait sur la tronche. C'est bon ou mauvais signe le fait qu'ils disent qu'ils soient plus pro? Bah, c'est une question de point de vue, on peut en discuter, mais lui, son point de vue que je partage, c'est de dire que collaborateur de cabinet, c'est un métier engagé. Tu fais pas ce métier par hasard, c'est pas un espèce de poste de fonctionnaire, et j'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires, il y en a des très engagés aussi, c'est pas le sujet, mais il y a une fibre politique, c'est cohérent d'avoir une envie de faire les choses, de faire bouger les choses, de faire de la politique, de fabriquer de la politique, etc. Et d'avoir des espèces d'ectoplasmes qui n'ont pas vraiment de conviction chevillée au corps, ça pose des questions sur la fabrication du politique, quoi. Bon, mais après, tant qu'ils trouvent du boulot, les mecs, il n'y a pas de problème, hein. Tant qu'ils trouvent du boulot, qu'il y a des députés pour les embaucher, des maires, etc., très bien, enfin, faites carrière. Au fait... Tu étais au congrès des maires ce matin, c'était comment ? Ouais, j'étais au congrès des maires ce matin, à la porte de Versailles, c'était très bien. J'ai participé à une table ronde sur la question de la jeunesse et de l'engagement avec Jean-Louis Borloo. C'était cool, ça me fait plaisir de voir Jean-Louis Borloo. C'était très sympa. C'était très sympa, j'ai rencontré des maires, des adjoints, j'ai discuté avec des élus et tout. C'était très cool, mais malheureusement, j'ai pas pu rester très longtemps parce que je devais revenir streamer vite. Ça a duré plus longtemps que ce que je pensais, donc j'ai pas pu rester. Mais n'hésitez pas à y aller, hein. Congrès des maires de France, porte de Versailles, c'est très cool, il y a des élus partout. Le Premier ministre, Jean-Louis Borloo, comme pressenti, comme à chaque fois, Jean-Louis Borloo, l'hypothèse Jean-Louis Borloo à chaque remaniement, j'adore, j'adore. Ce soir, l'Elysée, PTDR. Alors non, ce soir, je vais pas à l'Elysée. Ce soir, il y a le parti politique Les Écologistes qui m'ont proposé d'animer un débat retransmis sur la chaîne YouTube du parti entre Marine Tondelier et Walid Mouali, qui sont les deux candidats déclarés pour représenter les écologistes dans la primaire Front Populaire 2027, là. Donc ils organisent un débat entre les deux pour se présenter et tout. Ils m'ont proposé de l'animer, j'ai dit vas-y banco. Donc je vais animer ce débat. Est-ce que tu restreams le débat ? Ah non, je restream pas le débat, c'est un truc interne au parti politique Les Écologistes. Non, je diffuse pas sur ma chaîne un truc des écolos, non. C'est sur quelle chaîne ? Bah, j'ai compris que c'était sur leur chaîne à eux. J'ai compris que c'était sur leur chaîne à eux, probablement la chaîne YouTube des écologistes, peut-être la chaîne Twitch aussi, je ne sais pas s'ils en ont une d'ailleurs. C'est à quelle heure ? Putain, c'est une bonne question. J'ai pas mon portable, il est en train de charger, mais c'est à 18h30, je crois, ou 19h, dans ces eaux-là. Animer, ça veut dire quoi ? Animer, ça veut dire... Bah, animer, c'est... Animer. Enfin, je vais distribuer la parole, veiller au respect du temps de parole, donner les thèmes. Animer, quoi. Dire bonjour, bienvenue. Question bête, mais t'es un membre de leur parti pour pouvoir faire ça du coup ? Non, je suis pas membre du parti, je suis quelqu'un d'extérieur au parti. Merci Manitou. Vu que c'est un débat qui est interne au parti, je suppose, je leur ai pas demandé, mais je suppose qu'ils ont voulu faire appel à quelqu'un d'extérieur du parti qui n'a pas d'enjeu. Moi, j'ai pas d'enjeu personnel dans le parti. Je suis ni pour Marine Tondonier, ni pour Walid. Donc, j'ai pas d'action, je m'en fous. T'es payé du coup ? Ouais, c'est une prestation rémunérée. C'est une prestation rémunérée. Je mets à disposition mon savoir-faire d'animation de débat. Ça m'arrive de faire ça, alors pas très souvent parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je fais des débats, des colloques, des conférences. Ouais, y a des gens qui me payent pour animer des conférences, des colloques. Je fais aussi les mariages, les anniversaires, les bar mitzvahs. Enfin, je dis ça, voilà, vous gardez ça en tête, mais voilà, je fais ça, ouais. Je vais devoir voter pour cette désignation. Je vais essayer de suivre le débat du coup. Et bah c'est le but. Le but, si le débat est organisé, c'est pour que les gens comme toi qui vont voter puissent entendre les deux candidats, ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils défendent, et puis ensuite vous ferez votre choix en votre âme et conscience. C'est normal, t'as un savoir-faire et de l'XP, c'est normal que tu sois payé pour ça. Je suis d'accord avec toi. non, mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est mon métier, je suis animateur, je suis streamer, je suis youtubeur, je suis machin. Je fais payer mes compétences quand on me demande de travailler. Ça recommence quand les QAG ? Ça recommence pas, c'est terminé. C'est terminé. On a eu une chouette séance. Le paiement se fait en abo Twitch. Oui, entre autres. D'ailleurs, il serait temps de passer à la caisse, si je puis me permettre. Enfin, voilà, je te présente la facture, j'attends l'encaissement. Après, voilà. Oh, putain. Elle a dit que la séance reprenait à 15h. Il parle de quoi, du coup ? La séance de l'après-midi, je ne sais pas, c'est la séance après les QAG. La séance publique reprend. De quoi ils discutent en ce moment ? Ils sont toujours sur le projet de loi de finances. Ils sont toujours sur le PLF 2026. Alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'ils ont attaqué ? Ah non, c'est pas encore, on est toujours sur le volet recettes. Donc c'est toujours le PLF. On est en marathon budgétaire, ça ne change pas. Difficile de sub depuis les iPhones à cause de la surtaxe Apple. C'est une excuse ? Tu veux que j'accorde ton excuse ? Je sais pas. Je me réserve. Non, c'est la loi de fin de gestion 2025. C'est pas ce qui est écrit sur le calendrier. Cet après-midi, c'est PLF. Hein. PLF 2026, PLF 2026, séance de 21h30, séance de 14h. Ouais. Est-ce qu'on peut te soutenir autrement que via Twitch ? Oui, tu peux soutenir mon émission Backseat, qui est mon talk show d'actualité politique le jeudi, mais pas cette semaine, sur ma chaîne. Et le projet Backseat est un projet qui est financé par le financement participatif. Il faut aller sur la plateforme Ulule. Enfin, tu fais point d'exclamation Backseat dans le chat, regarde. Boum. Tu cliques sur le lien. Putain, c'est encore le lien qui se banque. Faut qu'on le change. Ça te renvoie vers Ulule automatiquement. Et tu peux choisir la formule qui te convient le mieux pour soutenir ce beau projet. On fait quelque chose du coup à la place jeudi. Ouais, jeudi, on fait. Je publie ma programmation de la semaine sur Blue Sky toutes les semaines. Jeudi, on fait une revue d'actu à 17h. On fait une revue d'actu. Jeudi, c'est demain d'ailleurs. Ouais. Le lien fait un renvoi sur Ulule. Oui, je sais que le lien fait un renvoi, mais c'est quand même dommage. Faut qu'on le change, faut que l'on occupe. Quel budget par mois est nécessaire pour Backseat? Alors, on n'a pas de budget mensuel, ça n'a pas beaucoup de sens. On fait un budget par émission. Et chaque émission nous coûte 15 000 euros à produire. Alors, ça dépend si on compte avec ou sans les taxes et tout, mais bref, c'est 15 000 euros grosso merdo l'enveloppe dont on a besoin pour produire une émission. Faut que je revienne dans le club, moi. Bah vas-y, reviens. Quelle est la date limite pour que le budget soit voté? 31 décembre. Mais le gouvernement a la possibilité de faire passer le budget par ordonnance avant cette date. Non, ça va être short, hein. Ça va être short. Et encore une fois, je vous le disais avant le début des questions au gouvernement, mais moi, je ne sais... Enfin, je suis encore plus perdu qu'avant sur l'issue de ce budget, en fait. C'est que vraiment, je ne sais pas où on va atterrir. Et ça ne va pas vous rassurer, mais j'ai croisé le député Arthur Delaporte, on était invité à une conférence ensemble. Je lui ai dit ça va toi et tout, raconte-moi machin et tout, et il m'a dit je suis dans le flou, je suis dans le flou le plus total, je sais pas du tout sur quoi on va atterrir. Vote du budget, pas vote du budget, motion de censure, ordonnance et tout. Tout le monde est du père, même les députés. Je suis abonné Backseat et j'ai toujours pas reçu ma carte de membre. Est-ce qu'il y a une démarche à faire pour la recevoir? C'est pour les membres du club, la carte. Et il faut, alors normalement c'est prévu. En fait, on peut pas éditer les cartes une à une parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc on fait par paquet et ensuite on s'occupe de l'envoi. C'est Thomas qui s'occupe de ça. Tu peux envoyer un mail à l'adresse mail publicbackseat@gmail.com. C'est l'adresse mail qui est utilisée pour faire l'interface avec le public et c'est Thomas qui s'en occupe et c'est justement lui qui saura te dire où en sont les cartes. Je m'amuse à regarder les débats. Et comme tu le disais, c'est un budget Frankenstein. Il y a des amendements RN-LFI qui sont votés, des amendements Ensemble PS ou LR qui sont votés. C'est vraiment très bizarre. Mais je suis d'accord avec toi, Simon. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai suivi comme vous le marathon budgétaire. Et putain, ce budget n'a ni queue ni tête, en fait. Enfin, ni queue ni tête. Il n'a pas de cohérence économique. Quoi. Il fait à la fois des économies, en même temps, il augmente des impôts et tout. Enfin, c'est très... C'est très, 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 très étrange la période qu'on est en train de vivre. Je pense que Sébastien Lecornu fait ce qu'il faut faire dans sa situation pour essayer de durer le plus longtemps possible. Mais qu'est-ce que ça donnera à la fin C'était prévisible en soi. Ouais, bah c'était comment il s'appelle, Éric Coquerel qui avait parlé de budget Frankenstein dès le début d'ailleurs du marathon. Tu crois à une censure lors du vote du budget? Moi, je pense qu'une censure est possible. Ça va beaucoup dépendre des socialistes s'ils estiment qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient dans le budget exécuté, quelle que soit la méthode d'exécution du budget. Il y aurait une cohérence si on avait un seul camp au pouvoir via, par exemple, la mise en place d'une proportionnelle avec prime majoritaire. C'est exactement ce que dit Marine Le Pen, effectivement. C'est effectivement ce que dit Marine Le Pen. Il faut une proportionnelle avec prime majoritaire qui garantira probablement au Rassemblement national la capacité à gouverner de manière cohérente avec une majorité absolue. J'imagine la gueule des fonctionnaires au ministère des Finances en mode on se fait chier à tout recalculer à la volée ou on attend la fin. C'est exactement ça. Hein. Moi, je bossais au ministère des Affaires Sociales. Je me souviens, j'avais un directeur de cabinet adjoint. Chargé des Affaires Sociales, donc chargé du budget de la Sécurité Sociale, PLFSS, etc. C'était un spécialiste, un énarque, le mec avec un cerveau, mais stratosphérique. Et il avait deux calculatrices sur son bureau. Et jusqu'à 2h du mat', il faisait des calculs comme ça, il bouclait des budgets, il prenait des reliquats et machin, il bougeait les machines. Oh la vache! Oh putain! Il était incroyable. D'ailleurs, je voulais te demander, s'abstenir de voter le budget et ne pas voter contre, est-ce que c'est une forme de soutien sans participation ? Bon, on avait déjà le débat au moment de l'abstention de voter la motion de censure contre Sébastien Lecornu. Est-ce que s'abstenir de censurer, c'est soutenir ? C'est un peu plus subtil que ça, c'est un peu plus paradoxal. Tu peux être dans l'opposition sans forcément empêcher. Et c'est le cas sans doute pour une abstention de voter le budget, oui. Sauf que là, le truc, c'est que quand je commence à faire la liste des groupes qui ont l'intention de s'abstenir de voter le budget, ça commence à faire beaucoup. Hein. Vraiment, je ne sais pas qui va voter le budget. Si tout le monde s'abstient, mais qu'est-ce qu'on fait du coup ? Là, c'est sûr qu'il va être rejeté, mais... Alors après, attention, parce que je me laisse moi-même embarquer, alors que je suis censé pas être né de la dernière pluie. Il y a beaucoup de stratégies politiques dans tout ça, évidemment. Tu fais monter l'enchère, tu menaces de censurer, tu menaces d'avoir recours au 49-3, au machin, etc. Tu essayes de forcer le camp d'en face à amoindrir sa position pour essayer de trouver un deal, un truc comme ça. Mais donc, faut pas se fier à toute déclaration d'un député qui dit « en l'état actuel, le budget est invotable ». Oui. Ok, on a entendu, c'est un message envoyé, on verra à l'issue qui se positionnera vraiment à la fin, quoi. Je croyais que les ordonnances, ça empêchait le vote de l'Assemblée nationale. Ouais, les ordonnances, il n'y a pas besoin d'un vote si tu fais passer le budget par ordonnance. Par contre, il peut toujours y avoir une motion de censure hein, après des ordonnances. D'où ma réponse tout à l'heure sur « les socialistes censureront le Cornu ». Si il fait passer par ordonnance un budget qui ne comprend pas les avancées qui ont été votées, notamment par les socialistes à l'Assemblée nationale. D'où le fait que Sébastien Lecornu a intérêt à la jouer fine. Pas intérêt à faire n'importe quoi avec son budget par ordonnance, s'il a recours aux ordonnances. Si l'ordonnance, elle est prise, la censure ne fait pas tomber les ordonnances. Non, la censure ne fait pas tomber les ordonnances. Le budget entre en vigueur au 1er septembre, mais de toutes les manières, s'il y a censure et qu'il y a dissolution dans la foulée, il y a un nouveau gouvernement, peut-être une nouvelle majorité, croise les doigts, enfin ça dépend laquelle, et vote d'un budget rectificatif dans la foulée. Donc ça ne change pas grand-chose. Est-ce que la censure peut se faire avec le vote sur le budget ? Non, la censure, c'est séparé du vote. Il n'y a pas de 49-3 cette année. Il n'y a pas de 49-3, c'est l'engagement de Sébastien Lecornu. D'ailleurs, il y a certains députés qui disent à Sébastien Lecornu qu'il a intérêt à faire revenir le 49-3. Ça m'étonnerait que Sébastien Lecornu fasse ça. À partir du moment où tu t'es publiquement engagé à ne pas avoir recours au 49-3, tu ne peux pas revenir avec un 49-3, ce n'est pas possible. C'est la garantie d'être censuré. Mais donc pas de 49-3 cette année, vote du budget, budget adopté, budget rejeté, ça on verra, et dans la foulée, motion de censure. le PS ne censurerait pas après un budget adopté par ordonnance ? Ça dépend du budget. Ça dépend du budget. C'est pas le principe de l'ordonnance le problème. Le problème, c'est le budget qui va être exécuté par l'État pendant un an. C'est ça qui compte. Il va faire par ordonnance et laisser le Parlement se bouffer entre eux ou censurer. Moi, je pense comme toi. C'est-à-dire que ça fait trois semaines que je vous gonfle en vous disant que c'est mon analyse, effectivement, c'est que ça va finir par des ordonnances plus ou moins habiles de la part de Sébastien Lecornu qui sera censuré ou pas dans la foulée. Ça, on verra. Abonnez-vous. Mais là, je commence à changer d'avis depuis que j'ai vu Amélie de Montchalin expliquer qu'il n'y aura pas d'ordonnance. Alors, pareil. Ça peut être de la tactique. Peut-être qu'Amélie de Montchalin se présente devant les députés la main sur le cœur en leur disant que le gouvernement n'a pas l'intention d'avoir recours aux ordonnances de manière à permettre au Parlement de voter, etc., etc. C'est peut-être de la posture. J'en ai marre de voir des politiciens faire une partie d'échecs pour rester au pouvoir pendant que nous, on subit la précarité et la montée de l'extrême droite et ses idées néofascistes au quotidien. C'est toi qui sépare les deux, alors que les deux sont liés. Ce que sont en train de faire les députés, c'est pas une partie d'échecs pour le plaisir de jouer aux échecs. Les députés sont en train de débattre et de voter le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale pour l'année 2026, avec un ensemble de mesures prévues dans le budget et de moyens pour les politiques publiques qui permettent de lutter contre notamment la précarité, etc. etc. Ça dépend quel député, hein, ils sont pas tous d'accord, c'est même pour ça qu'ils débattent. Une fois le budget appliqué par ordonnance, comment se déroulent les débats au Parlement ? Il n'y a plus de débat, hein. Une fois que le budget il est appliqué par ordonnance, il est appliqué par ordonnance. Il rentre en vigueur. Ça fait combien de temps qu'ils sont là ? On en est à combien de gouvernements déjà ? Depuis 1958 ? Un paquet, hein. Le Sénat commence à détricoter le budget par le budget et la suspension. Mais ça, c'est sûr. Hein. Les sénateurs, ils l'ont annoncé, et ça, c'est à peu près certain. Le Sénat va voter une version du budget beaucoup plus proche de la version initiale du gouvernement que ce qu'a fait l'Assemblée nationale. C'était prévu, hein, détricoter ce qu'a fait l'Assemblée nationale. On verra en CMP s'ils tombent d'accord sur un deal qui satisfait l'Assemblée nationale, mais ça, j'y crois pas. Et puis, on verra à la fin ce que vote l'Assemblée nationale. Est-ce qu'un amendement voté par l'Assemblée nationale peut être supprimé par une CMP ? Oui. Enfin, il peut être supprimé par le Sénat, puis négociation en CMP pour savoir si on le réintroduit ou pas. Par contre, si l'Assemblée vote contre ces lois spéciales, puis nouveau projet de budget. Ouais, exactement. Comme avec Barnier. On retombe sur ce qu'on a fait avec Barnier. Il faudra adopter un budget en janvier. Si l'Assemblée nationale et le Sénat sont pas d'accord, on part en CMP, mais peut-il y avoir un non-lieu en CMP, genre personne ne se met d'accord ? Oui, c'est possible. Ça s'appelle une CMP non conclusive, et on se retrouve avec une deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Avec la règle de l'entonnoir, donc tu peux pas réamender tout ce que tu as déjà amendé, mais l'Assemblée nationale a le dernier mot, quoi. C'est quoi la CMP ? La CMP, c'est la commission mixte paritaire. C'est un nom tout à fait barbare pour désigner une réunion de négociation entre des députés et des sénateurs pour essayer de se mettre d'accord. C'est ça qu'on appelle la commission mixte paritaire. La gauche veut-elle aller au vote pour voter contre ? Une partie de la gauche, oui, les insoumis et les communistes notamment. Pour ce qui est des socialistes et des écolos, c'est pas encore très clair. Sans urgence, c'est pas après deux tours de navette parlementaire qu'il y a une CMP normalement. La procédure ordinaire d'examen, c'est deux lectures par chambre avant la CMP, effectivement. Mais les procédures accélérées et les procédures budgétaires, c'est une seule lecture par chambre. Donc, là, les députés, en tout cas avec ceux avec lesquels je discute, ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Le marathon budgétaire, c'est éreintant, c'est technique, c'est complexe, c'est des heures en séance, des amendements très, très subtils à négocier, à discuter. Beaucoup de palabres dans les couloirs aussi, c'est le principe du parlementarisme. Et personne ne sait très bien à quoi il faut se préparer, quoi. Je ne veux pas être défaitiste, mais le budget va être tellement bancal. Oui, oui. Le budget in fine qui sera exécuté, à mon avis, sera un budget qui satisfera personne pleinement. La gauche dira que ce n'est pas un budget de gauche, la droite dira que ce n'est pas un budget de droite, les macronistes diront que ce n'est pas un budget macroniste. Y a des trucs qui les hérissent, qui les énervent, il y a des dispositions qui ont été votées qui ne leur plaisent pas. Voilà, on est dans une situation d'inconfort pour tout le monde. Est-ce que c'est pas un bon budget, un budget qui satisfait personne ? Bah, je sais plus qui disait, je sais pas si c'était Churchill ou quelqu'un d'autre qui disait un bon compromis, c'est quand personne n'est content. Voilà. Question de point de vue. Aucun budget ne satisfait pleinement, mais là, ouais, ça va être particulier. Oui, je suis d'accord avec toi, il y a toujours des couleuvres que tu avales, etc., y compris la majorité, d'ailleurs, c'est normal. Mais oui. Là, cette année, putain... C'est un budget en même temps, c'est bizarre que ça plaise pas aux macronistes. Ouais, enfin, y a en même temps et en même temps. C'est-à-dire que les macronistes, ils ont quand même une ligne directrice, ils ont quand même des guidelines politiques sur l'exécution de leur budget depuis 2017. Là, ce budget, en tout cas, la version votée par l'Assemblée nationale, ne prend pas la direction du macronisme, notamment sur le dérapage du déficit, l'augmentation des impôts et des taxes. Emmanuel Macron lui-même a fait savoir qu'il n'était pas giga chaud pour ce budget. Un compromis biparti. Là, on parle de plusieurs lignes politiques, donc un manque de cohérence. Et oui, et c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est le problème de la cohérence budgétaire. Un budget... C'est pas juste un tableau de chiffres avec des montants de taxes et des montants de dépenses. Un budget, c'est une impulsion politique, c'est un sens politique, c'est une politique économique, sociale. Un budget qui baisse massivement les impôts et qui baisse massivement les dépenses. C'est un budget cohérent. Il a sa grille de lecture, il a sa clé, il a sa logique. On peut être d'accord ou pas d'accord avec, mais il a une cohérence. Un budget qui augmente massivement les impôts et qui augmente massivement les dépenses, il a lui aussi sa cohérence. Une autre cohérence, mais une cohérence politique. Ça va quelque part, ça dit quelque chose. Là, on a un budget qui... un peu dans tous les sens. Si t'as des dispositifs incitatifs en matière fiscale, t'as des trucs où on augmente des taxes. Ouais. La politique économique, elle est pas claire, quoi. Il se serait probablement passé la même chose qu'aujourd'hui avec Lucie Castet et la stratégie de négociation, texte par texte, soit dit en passant. Oui, merci de le dire. Merci de le dire. Lucie Castet a été très lucide. Quand elle est venue sur le plateau de Baxit et qu'on lui a posé la question, elle a été très lucide sur le fait qu'avec seulement 200 députés, la gauche n'est pas en mesure d'imposer son budget. Donc il allait falloir, dans l'hypothèse où elle était nommée première ministre, trouver des compromis avec les macronistes. Négocier, discuter. Et alors j'aurais adoré vivre ça, vous vous en doutez, mais ça aurait été rock'n'roll. Et je vous parlais tout à l'heure de tactique parlementaire, les macronistes auraient évidemment menacé jusqu'à la dernière minute de ne pas voter le budget. Ah bah pas folle la guêpe. Les macronistes, ils sont dans leur rôle, ils font monter les enchères. Ah vous voulez qu'on vote votre budget ? Hein ? Ah, vous voulez qu'on vote votre budget ? Ah. Eh ben, va falloir modifier 2-3 trucs dans le budget, alors, si vous voulez qu'on le vote. Va falloir que vous acceptiez des amendements. Donc, la gauche aurait dû avaler des couleuvres, sans doute. Donc, oui, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire, ce qu'est en train de faire, ce qu'est en train de vivre Sébastien Lecornu n'est pas propre au macronisme. Il est propre à une assemblée tripolarisée. Est-ce qu'ils auraient supporté le chaos ? Ah ben, ils auraient provoqué le chaos. C'est le rôle c'est le rôle d'un parti d'opposition que de mettre le gouvernement sous pression. Le mettre en situation tout à fait désagréable pour le forcer à amender sa position, négocier, discuter, etc. Quelle est la meilleure position alors de ne pas être au gouvernement ? Il n'y a pas de bonne position dans une situation telle que celle qu'on connaît. La meilleure des positions, c'est une majorité absolue. Il n'y a rien de mieux, d'ailleurs la 5e République a été pensée comme ça, qu'une majorité absolue, cohérente, qui a un programme politique, qui fait passer ses budgets tous les ans. Elle sait où elle va, elle avance, pour le meilleur ou pour le pire. Après, on en débat. On discute du succès ou pas de la politique qui est menée, mais... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Ouais. Tripolarisé pour être sympa, à l'approche des présidentielles, il y a 5 pôles qui sortent. 5 pôles ? Alors, tu mets qui dedans, toi ? Tu mets LFI tout seul dans son coin et le reste de la gauche dans un pôle. Les macronistes, les républicains et le RN. Ouais, ça fait... Ouais, pourquoi pas. Oui, si tu veux. LR, ils vont pas s'allier au RN plus ou moins. Pour l'instant, LR et le RN se mettent sur la tronche toute la journée. Enfin, voilà. LR et le RN, ça se passe pas bien du tout. Hein. On se pose, on est nombreux à se poser des questions, et on en avait posé des questions d'ailleurs à notre invité Xavier Bertrand sur le plateau de Baxit, justement sur cette fameuse union des droites. Est-ce que c'est pas inéluctable au bout d'un moment que LR et le RN finissent par faire des alliances, ne serait-ce qu'au niveau local pour commencer, puis potentiellement au niveau national dans un second temps, blablabla. Pour l'instant, les Républicains, ils sont vent debout contre toute hypothétique alliance avec le RN. En demeurant, le RN ne meurt pas d'envie de faire alliance avec les Républicains. Même si Jordan Bardella a déclaré qu'en cas de majorité relative, il était prêt à aller chercher des compromis, sous-entendu avec les Républicains. Est-ce que les Républicains accepteront de jouer à ce jeu-là ? J'en suis pas sûr. LR et le RN sont opposés sur tous les points économiques, c'est mort. Moi, mon problème, c'est qu'il n'y a que les points économiques qui les séparent. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. J'entends le RN d'un côté, LR de l'autre, se foutre sur la tronche sur des enjeux économiques. Ils ne sont pas d'accord. Je trouve terrible que tous les députés savent qu'ils ont bossé pour rien. On bosse jamais pour rien quand on est député. Pourquoi ne s'être pas mis des holas bien plus tôt pour que le budget final soit votable? Est-ce que c'est pas un aveu d'échec parlementaire? Mais ce dont tu parles, c'est les amendements. C'est à ça que ça sert, les amendements. Ça sert à rendre un budget votable. Nous, le groupe des je sais pas quoi, proposons une série d'amendements qui, s'ils sont tous adoptés, rendront ce budget conforme à nos valeurs, à nos opinions, et donc nous le voterons. C'est ça, des amendements. Pourquoi on ne parle jamais d'alliance macroniste LR pour un candidat? Il gagnerait à coup sûr, non? Parce que les Républicains ont été dans l'opposition à Emmanuel Macron pendant 7 ans. Les Républicains ont été alliés à Emmanuel Macron pendant 1 an. Et ça s'est mal terminé. Confère le départ brutal de Bruno Retailleau du gouvernement et la quasi-purge des ministres LR du gouvernement Le Cornu. Donc non, les Républicains, ils ne sont pas macronistes. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau n'arrête pas de le dire dans chacune de ses interviews, je ne suis pas macroniste. Certainement pas. C'est pas notre soupe, c'est pas notre droite, c'est pas notre manière de voir les choses. Et il est globalement suivi pour ça, par son bureau politique, et par le groupe à l'Assemblée, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a Laurent Wauquiez qui fait tout ce qu'il peut pour faire chier Bruno Retailleau, évidemment. Les macronistes tirent tellement à droite que les LR doivent dériver eux-mêmes vers plus de droite pour exister. Mais la droite, en tout cas les Républicains, considèrent que les macronistes ne sont pas de droite. Ils ne sont pas dans le socle de valeurs historiques du RPR. C'est plus l'UDF, tu vois. Alors ça n'empêche pas de faire des alliances ponctuelles, ils l'ont fait pendant 1 an. Donc, on n'est pas sorti des ronces, hein, les copains. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'est pas sorti des ronces. Mais qu'est-ce qu'on va rigoler? Les LR qui veulent s'allier à Macron, les LR qui veulent s'allier avec le RN et ceux qui veulent rester indépendants. Il n'y a pas de LR qui veut s'allier avec le RN. C'est pas vrai, en fait. Ils se sont barrés avec Éric Ciotti. Ils ont franchi le Rubicon, ils ont quitté le parti, ils ont créé l'UDR, ils ont négocié un accord de coalition avec le Rassemblement National. Mais il n'y a pas de LR qui veut faire d'alliance avec le RN. Xavier Bertrand disait à Baxit ne pas se reconnaître en Retailleau, mais de le combattre de l'intérieur. Ouais, c'est ça. Xavier Bertrand fait partie des derniers des Mohicans, quoi. Il fait partie des derniers représentants de la droite sociale. Alors évidemment, c'est contextuel, c'est lié au Conseil régional des Hauts-de-France, c'est lié aux conditions particulières de son accession à la présidence. C'est probablement lié aussi à des conditions, à des convictions profondes qu'il a. Hein. C'est pas le sujet, mais ouais, il commence à se faire rare, je trouve, les Xavier Bertrand chez les Républicains. Je rappelle, on peut aimer ni l'un ni l'autre sans qu'ils soient la même chose. C'est bien dit. Je suis d'accord avec toi. Les convictions profondes de Bertrand. Ah bah non, il a pas de conviction, puisqu'il pense pas de la même manière que moi. Bah non, je suis con, pardon. Oui, oui, c'est vrai. J'avais pas pensé. RN-UDR, même combat. Ah oui, là, pour le coup, le Rassemblement National et l'UDR sont très proches. De toute façon, mais plus que proches, ils sont alliés, les mecs. Ils sont littéralement alliés. Alors, sur des sujets économiques, ils ont eux aussi des points de diphtongue sur 2-3 points un peu particuliers sur lesquels Éric Ciotti a fait savoir qu'il n'était pas tout à fait aligné avec Marine Le Pen. Mais enfin, franchement, c'est secondaire. Merci, Amo. Franchement, c'est secondaire. Moi, je les aime bien, l'UDR. Enfin, je les aime bien. Voilà. Faut que je fasse gaffe à ce que je dis, mais non, en fait, ils me font marrer parce que l'UDR, vous les voyez à l'Assemblée nationale, c'est des gens qui sont pour l'essentiel issus des Républicains et qui se sont barrés, slash ont été virés des Républicains parce qu'ils ont fait alliance avec le Rassemblement national. Et maintenant qu'ils sont en dehors des Républicains, l'UDR, ils lâchent complètement les freins. Ils sont hyper caricaturaux. Ils sont d'une droite libérale autoritaire. Et à chaque fois qu'ils prennent la parole dans l'hémicycle, tu sens qu'ils ne sont pas tenus par la même exigence de probité qu'est celle du Rassemblement national, qui essaye toujours de paraître bien poli, bien élevé, pas un mot plus haut que l'autre, sage, présentable, etc. L'UDR, c'est la version dégénérée. C'est vraiment, ils prennent le micro pour dire « Ouais, le bolchevisme du gouvernement !» Les gars, mais vous avez lâché tous les freins. C'est OK. Donc, ouais, c'est vraiment ça, l'UDR. Au demeurant, l'UDR, ils ont un enjeu de se faire connaître du grand public. Ils ont un enjeu d'exister dans l'ombre de l'énorme Rassemblement national. Donc, ils ont ce besoin aussi de se faire connaître, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils sont dans la giga caricature tout le temps. Et c'est assez marrant. C'est assez marrant. Enfin, c'est assez marrant. Il faut avoir un certain type d'humour, mais... C'est le club de supporters ultra du RN que le club a du mal à assumer. C'est... Non, ils sont un peu trop agités, quand même. Bon... Les Ciottis, c'est toujours le meilleur moment des QAG. Ah mais putain, mais à chaque fois, ils nous régalent, quoi. Mais même dans les défenses des amendements, c'est pareil. Ils prennent la parole pour dire des trucs. T'es en mode, waouh. Ça change du RN. C'est... Ouais, ouais, non, non. Ouais, c'est... non c'est... Je te dis, c'est la version dégénérée. C'est... La version limitless. On dira décomplexé. Ouais, c'est la version décomplexée de la droite décomplexée. Ouais, ouais, c'est un peu ça. C'est... Mais il y a aussi une émancipation vis-à-vis du sarkozysme. Tu sens là aussi qu'il y a... Il y a des digues qui sont tombées, il y a des manières de se comporter et tout qui sont tombées du côté d'Éric Ciotti. C'est marrant quand même. Enfin, je... Nouvel acteur à droite. Peut-être qu'on verra l'émergence d'un nouvel acteur à gauche. Hein. Ça me paraît bien rempli l'espace à gauche quand même. Enfin, il y a déjà du monde, quoi. Quitte à être d'extrême droite, autant y aller à fond. Ouais, alors ça, c'est aussi le point de vue d'Éric, pas d'Éric Ciotti, mais d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il est complètement sur cette ligne d'extrême droite, franchement assumée, quasiment un retour à la vieille extrême droite catholique. Là, il sort son bouquin sur la christianisation. Putain, mais plus personne défend ça. Bah, lui, ouais, vas-y, j'ai pas de problème, on y retourne. Ouais. Bien pétainiste aussi, le Zemmour. Bah ouais, Zemmour en 2022 qui t'explique que Pétain a sauvé les juifs français. Le retour du pétainisme à l'extrême droite, quoi. Et c'est là que tu vois, c'est là que tu vois la dédiabolisation de Marine Le Pen et ce qu'elle a réussi à faire en 10-15 ans, là. Qui est quand même assez spectaculaire parce que Éric Zemmour vient nous rappeler quelle était l'extrême droite d'avant Marine Le Pen, quoi. En gros, à quoi ça ressemblait à l'époque. Les sorties outrancières, les propos scandaleux. Je sais bien que l'armée, c'est pour la défense extérieure, mais concernant le narcotrafic, je pense que c'est la seule solution. Comme Donald Trump. Comme le président du Salvador. Comme Duterte, président des Philippines. Ouais, non, des belles personnes, ouais. Salut la compagnie, salut Mr. Fox. Je sais que l'éducation c'est pour l'école, mais je pense que pour le narcotrafic c'est la seule solution. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Solution à quoi, comme vous déterminez les cibles, comment vous déterminez les cibles d'une division de chars dans le cadre du narcotrafic? Ouais, ouais, mais j'en ai déjà parlé il y a deux jours. On a eu cette discussion sur le fantasme du recours à l'armée. L'armée étant une espèce de garante de l'efficacité, du résultat absolu. On peut leur faire confiance, ils savent faire, etc. Et du coup, on se met à envisager l'armée comme étant une solution viable pour des problématiques qui relève absolument pas de l'armée et dans lesquelles l'armée est pas du tout outillée. L'armée incorruptible, évidemment, bien sûr. C'est juste que c'est le dernier truc dont les Français ont confiance. Oui, c'est vrai. Non, non, mais tu as raison. Quand je parle de fantasme, c'est pas dénué de réalité derrière, effectivement. Quand je parle de confiance dans l'efficacité de l'armée, son savoir-faire, sa capacité à être extrêmement professionnel, machin, machin, ça sort pas de nulle part. Hein. Notre armée, je pense à titre personnel, notre armée est une très très bonne armée, un savoir-faire, une excellence, etc. Beaucoup de respect pour eux. Je pense tout ça dans le domaine militaire. Pour tout ce qui est militaire, je leur fais vraiment confiance. Quand il s'agit d'aller sauver Bamako en très peu de temps, j'ai toute confiance dans la capacité de l'armée à faire le boulot. C'est ça, voilà. Pour ce qui est des quartiers nord de Marseille, je te jure que j'ai aucune confiance dans l'armée pour réussir à faire quoi que ce soit d'efficace, d'utile. C'est pas leur... Non. D'ailleurs, les militaires ne veulent pas s'immiscer dans le civil. Ils savent que ça va mal finir. Oui, tu as raison. Les militaires qui s'expriment, les analystes, etc., qui s'expriment sur ces sujets, à chaque fois, ils disent la même chose, depuis toujours en plus. Ils disent non. Tenez-nous en dehors de ça. C'est pas notre job. On ne sait pas faire, on ne veut pas faire. On n'est pas un recours... Appelez-nous s'il y a un coup d'État. Là, on pourra peut-être faire, éventuellement. On pourra filer un coup de main, avec des chars, avec des hélicoptères et tout, ça, on sait faire, mais... pour gérer des problèmes purement civils, comme par exemple le problème du trafic de drogue dans les quartiers populaires. Et pas nous. Hein. Les gendarmes, c'est des militaires qui gèrent les affaires du civil. Mais justement, c'est dire à quel point c'est important de faire la part des choses entre les deux. On a littéralement créé une section spéciale des militaires pour ne s'occuper que de questions civiles, qui sont les gendarmes. Et c'est très bien, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Mais moi, je parle des autres militaires. Je ne sais pas d'où vient cette idée que l'armée peut tout faire, sachant que même historiquement, ça n'a jamais été le cas. Bah, d'ailleurs, c'est intéressant, je suis loin d'être un spécialiste. Il y a des docteurs, il y a des chercheurs qui ont fait des travaux là-dessus, sur le maintien de l'ordre. Je pense beaucoup de mal des gendarmes mobiles et des CRS pour un milliard de raisons, mais on a civilisé le maintien de l'ordre précisément parce que ça ne se passait pas bien du tout avec les militaires. C'est voilà, à l'époque où on envoyait la troupe contre les mouvements de grève, contre les machins, le mec il savait faire une chose, c'était tirer, donc il tirait, et puis il y avait des morts. Voilà, c'est grosso merdo, c'est comme ça que ça se gérait. Ça a pris du temps, notamment Clémenceau et d'autres ont fait tout un travail pour séparer de l'armée la compétence du maintien de l'ordre. Comme disait le CRS là, dans le documentaire de Striptease, nous on fait des bosses, mais on fait pas de trous. Bon, on va dire que c'est une forme de progrès. on va dire qu'on a gagné ça. Maintenant, on va essayer de travailler au fait de faire moins de bosses aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup des bosses. Puis il y a des yeux arrachés et tout. Enfin bref, on va continuer à travailler. Et puis c'est l'aventure, les mecs. Cette ref, elle est magique. Je connecte pas des bosses, mais pas de trous. C'est un CRS dans un documentaire. C'est un CRS qui parle du maintien de l'ordre, parle du savoir-faire du maintien de l'ordre, etc. Alors c'est un CRS, c'est une caricature, il est très bourru et tout. Et il explique l'intérêt du maintien de l'ordre des CRS avec cette métaphore en disant « Nous, les CRS, certes, on fait des bosses, parce qu'on tape, mais on ne fait pas de trous. Sous-entendu, on ne tire pas avec des armes à feu comme c'était le cas avant, à l'époque des militaires. Donc, c'est mieux. c'est une manière pour lui de dire, voilà, c'est mieux. On fait des bosses, mais on ne fait pas de trous. L'odeur de la lacrymo au petit matin. Sans la lacry. Bon, les mecs, vous êtes pas des PD. Pardon, excusez-moi, c'est des refs de ce documentaire absolument magique dont j'ai oublié le titre. T'as une caméra qui a suivi la formation des CRS dans les années 90 et c'est assez mythique comme documentaire. Ça s'appelle CRS derrière le bouclier. Merci. CRS derrière le bouclier. Si vous voulez regarder ce monument de l'audiovisuel français, c'est un peu un réservoir à même, hein, on va pas se mentir. Mais voilà. Attention à la poussière. Je crois qu'il est encore sur Dailymotion. Ouais, il est encore sur Dailymotion. Je crois que c'est avec Usul qu'on l'avait regardé l'année dernière, un peu bourré. Et on se le remet. Ouais, vas-y. Il était 1h du mat. Et on l'a regardé en entier. C'était très, très drôle. Non, c'était pas avec Usul. Enfin bref, peu importe. Je sais plus avec qui j'étais, mais c'était quelqu'un qui était fils de CRS. Et justement, on parlait de ça et tout. Et lui, il a grandi dans une caserne. Donc l'ambiance CRS, il connaît bien. et du coup, on a regardé le documentaire. Il m'a dit, putain, c'est toute mon enfance, quoi. Fallait nous faire un react. Mais j'ai pas les droits. J'ai pas les droits, je peux pas vous faire de react. J'ai grandi dans une base militaire. Bah voilà. Il faudrait une chaîne secondaire un peu scred. Non, je joue pas à ce jeu-là. Dans le genre, il y a le documentaire sur les jeunes recrues de la Légion qui vaut aussi son pesant de cacahuètes qui s'appelle La meilleure façon de marcher. Oui, je me souviens. La meilleure façon de marcher. C'est pas là que t'as le truc testicule clavicule. Oui, t'apprends à taper. Après, c'est... J'ai un doute. C'est peut-être pas dans celui-là. C'est peut-être pas dans celui-là. Et pourquoi on parlait de ça? Pourquoi on parlait de ça? Pourquoi on en est venu au maintien de l'ordre? On parlait de l'armée, le recours à l'armée. Le recours à l'armée. Et ça, je pense que le recours à l'armée, on va le réentendre. Habituez-vous à ce qu'on le ressorte. Contre le narcotrafic, contre la petite délinquance, contre les émeutes, contre les manifestants, contre les dégradations, contre... ça va revenir. Avec un rassemblement national à 35%, on va en bouffer du recours à l'armée. Contre les Antifa, contre les SDF, oui, bien sûr. Le débat Glucksmann-Zemmour, on en parle. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, le débat Glucksmann-Zemmour. Faut que je le regarde, je vais regarder ça ce soir en rentrant. Évidemment, j'ai pas les droits, donc je peux pas vous le diffuser, c'est sûr. C'était la proposition de Francis Lalanne. Non, Francis Lalanne, il proposait que l'armée fasse un coup d'État pour prendre le pouvoir en France. Puis qu'il rende le pouvoir au peuple. C'est un truc en deux étapes. C'est marrant, c'est toujours la deuxième étape qui foire dans ce genre de coup d'État. Mais voilà, les historiens vous le diront mieux que moi, mais ouais. Qui écoute Lalanne parler? Bah plus grand monde, hein, plus grand monde. Que sont devenues les figures des Gilets jaunes? Juan Branco, Francis Lalanne, Jean-Marie Bigard. Il y en a quand même pas mal qui ont vrillé, hein. Salement vrillé. Hein. Après, il y a eu le Covid, c'est vrai. Non, oui. Il y en a qui sont reconvertis dans l'antivax. Il est parti en Russie, lui. Je sais pas, mais oui, il est pro-russe. Lalanne, s'il déclare voter Zemmour, il peut revenir à CNews. Alors qu'on peut profiter de la matinale RMC avec Patrick Sébastien. J'ai vu que Patrick Sébastien nous avait gratifié de ses opinions. J'ai vu ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il ne faut pas oublier un truc avec Patrick Sébastien qui est intéressant. C'est que Patrick Sébastien avait créé un mouvement politique dans les années, début années 2010, de mémoire, qui s'appelait le DARD, D-A-R-D, qui voulait dire le droit au respect et à la dignité. Et ça avait capoté au bout de 6 mois, 1 an. Il avait abandonné, laissé tomber, machin, ça s'était mal passé l'expérience. Mais dans le discours qui était développé par le DARD, il y avait les prémices de ce que sera le mouvement des Gilets jaunes plusieurs années plus tard. C'était assez intéressant de relire rétrospectivement cette expérience un peu bizarre de Patrick Sébastien, parce qu'il disait tout un truc sur la dignité, sur les personnes périurbaines, sur ce que les Parisiens appellent les beaufs, sur la France d'en bas, sur la nécessité de rehausser la confiance en soi chez des gens qui en ont plus, qui sont méprisés par le système, etc. C'est beaucoup des thématiques qu'on retrouvera dans le mouvement des Gilets jaunes. Il a été un peu en avance de phase sur ce coup-là. Donc c'est intéressant à garder en tête. Et là, de ce que j'ai vu dans RMC, Patrick Sébastien a annoncé qu'il avait l'intention de créer un mouvement de type politique, peu importe si c'est un parti, une assoc, un mouvement, on s'en fout, en vue de la préparation de l'échéance de 2027, qui ne sera pas forcément incarné par une candidature, mais qui doit faire monter des thématiques, etc. Voilà, je... Est-ce qu'ils offraient des pompes à l'inscription au parti? Je me souviens quand Lalanne avait fait campagne pour un parti écologiste pour les européennes, c'était la première fois que j'allais voter dans mon lycée. J'avais hésité à l'époque entre son parti ou celui de José Bové, j'étais jeune. Oh, tu sais, le premier vote, c'est jamais le meilleur, hein. Mais il faut bien commencer quelque part. Bayrou en 2012. Bien sûr, mais il y avait une hype Bayrou en 2012. Hein. Moi, je continue. Non, pas Bayrou en 2012, en 2007. 2007, la hype Bayrou, elle était réelle. Hein. Il avait fait 18%, je crois, un truc comme ça. À l'époque, il était défendu par des jeunes talents comme Antoine Léauman. Moi aussi, oui, bien sûr. Mais c'est pas, quand je dis la hype, c'est pas du tout une adhésion de ma part ou quoi que ce soit. C'est qu'il faut reconnaître qu'il y a eu des moments où il y a eu des mouvements en faveur de personnalités dans des moments particuliers et des élections spécifiques où on a vu qu'il y avait une vraie hype Nicolas Sarkozy en 2007. Et ce serait une erreur d'analyse que de nier qu'il y a eu un mouvement particulier qui a porté Nicolas Sarkozy au pouvoir. Un mouvement qui était populaire, un mouvement qui était moderne, un mouvement qui était jeune. C'était pas le seul candidat, il y avait d'autres mouvements, il se passait d'autres trucs. D'ailleurs, ce qui s'est passé avec Ségolène Royal en 2006-2007 était aussi assez intéressant, dans la disruption du Parti Socialiste et des vieux caciques et tout. Mais voilà quoi. Bayrou 2007, 18,57%. La vache, je pensais pas. Ah si, c'était impressionnant Bayrou, hein. Bayrou 2007, 18%, il a refusé d'appeler à voter Nicolas Sarkozy au second tour, ce qui lui a valu une brouille définitive entre l'UMP et le Modem. D'ailleurs, il créera le Modem quelques mois après la présidentielle. François Bayrou qui refuse de faire alliance avec la droite. Comme Hollande en 2012, puis Macron. Oui, absolument. Hollande en 2012, la primaire de 2011, il y a des centaines de milliers de Français qui ont voté pour soutenir la candidature notamment de François Hollande. C'était pas le seul, il y avait aussi Martine Aubry, entre autres, et Emmanuel Macron 2017, je suis d'accord avec toi. Emmanuel Macron 2017, il y a eu un mouvement, un réel mouvement en sa faveur. Bayrou en 2007, c'était tous les gens de droite et de centre-droit qui refusaient le bling-bling de Sarko. Alors il y avait ça, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi un mouvement assez intéressant sur les institutions, sur la réforme et la démocratisation. Bayrou en 2007 a fait campagne aussi sur, quasiment en anticipation de ce que sera le macronisme 10 ans plus tard, sur le coup de balai dans un paysage politique engoncé entre deux mastodontes que sont le PS et l'UMP, le besoin d'air, le besoin de respirer dans ce périmètre démocratique, le besoin de faire émerger une nouvelle force, etc. Il y avait un entrain intéressant dans la campagne de Bayrou en 2007. Tu dois bien connaître cette époque. Bah, moi, en l'occurrence, à l'époque, j'avais 17 ans, 18 ans. C'était ma première présidentielle 2007 où j'ai voté. Première élection, d'ailleurs, où j'ai voté tout court. Donc, ouais, carrément, je me souviens très, très bien de l'ambiance qu'il y avait. La victoire de Nicolas Sarkozy, la campagne de Ségolène Royal, François Bayrou, les débats à la télé. Je m'en souviens très, très bien, ouais. Besancenot avait fait 4%. Tu confonds pas avec le 2002 où Besancenot avait fait 5% et Arlette Laguiller aussi. Ah, ou alors il avait réitéré en 2007, il avait à nouveau fait 4%, c'est possible. C'est possible, je me souviens plus. L'affaire DSK, c'est la même année. Non, DSK, c'est 2011. L'affaire DSK, c'est 2011. C'est en anticipation de la primaire. DSK n'était pas encore candidat à la primaire, en tout cas pas déclaré, mais tout le monde se doutait qu'il allait le devenir. Ah merde, il y a quelqu'un qui s'est fait ban par Moubot. Besancenot, 4,25% en 2002. Ok, donc 2002, c'est bien 2002 les 4% de Besancenot. C'est pas 2007. Je sais pas, j'en ai pas le souvenir du score en 2007 de Besancenot. C'était le mec pressenti à la place d'Hollande. DSK ? Non. Attendez, c'était vachement plus intéressant que ça. DSK, c'était soi-disant le grand favori pour la primaire du Parti Socialiste en 2007, en 2011-2012. Et quand DSK s'est fait éjecter, je vous rappelle que François Hollande a déclaré sa candidature, tout le monde s'en foutait. François Hollande, c'était l'ancien premier secrétaire du parti, c'était devenu nobody, il était en pleine traversée du désert, il était invité sur aucun plateau télé, tout le monde s'en branlait. Il a commencé sa campagne à la primaire, il était donné genre à 3%. Vraiment, tout le monde s'en branle. Je me souviens, il avait fait son lancement de campagne sur la priorité jeunesse. Évidemment, j'étais militant de la jeunesse, donc je m'en souviens bien. Il avait fait priorité jeunesse François Hollande. Et face à François Hollande, hors DSK, il y avait des mastodontes. Hein. C'était pas sûr du tout que François Hollande allait gagner. Il était loin d'être favori. Il y avait Martine Aubry, il y avait Laurent Fabius, il y avait potentiellement Ségolène Royal, on savait pas trop. Je sais plus si on parlait encore d'Emmanueli, etc. Mais Hollande, il avait face à lui du très très lourd. Et il a commencé à grappiller, des voix, il a commencé à faire sensation, il avait perdu beaucoup de poids, il apparaissait à la télévision, machin, priorité jeunesse et tout. Enfin, je sais pas, c'était, j'ai encore du mal, je vous avoue, à comprendre. Arnaud Montebourg, vous avez raison, Montebourg. J'ai encore du mal à comprendre comment François Hollande a réussi à gagner cette primaire, qui, encore une fois, était une primaire massive en termes de nombre de gens qui ont voté. Les files d'attente devant les bureaux de vote étaient immenses. Il y avait un élan assez important, quoi. Comment Hollande a réussi à être désigné candidat du Parti Socialiste, vu les poids lourds qu'il y avait en face de lui? Je sais pas. Mais c'est d'ailleurs ce que je trouve intéressant dans les processus de primaire, c'est que souvent, pas toujours, mais souvent les pronostics sont explosés dans les primaires, et les primaires permettent l'immixtion de nouvelles personnes ou de personnalités qu'on n'attend pas forcément à ces scores-là. La primaire des écologistes face à Jadot, il y avait Sandrine Rousseau qui s'est qualifiée au second tour devant Éric Piolle. C'était une surprise. On ne s'attendait pas à ce que Sandrine Rousseau fasse un score pareil. Elle a été portée par une vague militante, écologiste, féministe, etc. Ça a été un peu la révélation de la primaire des écologistes, Sandrine Rousseau. Ségolène Royal, en 2006, elle a niqué le game. Personne ne l'attendait, Ségolène Royal, c'était l'outsider. Je vous rappelle qu'elle faisait face à DSK et Fabius. Fabius, ancien Premier ministre, DSK, ancien ministre de l'économie et des finances, deux poids lourds, l'un de la gauche et l'autre de la droite du Parti Socialiste. Et au milieu de ça, Ségolène Royal, globalement inconnue au bataillon, ancienne ministre, secrétaire d'État à l'époque de Mitterrand. C'est Ségolène Royal qui a gagné. Elle aussi, elle a été portée par une vague, à l'époque, d'électeurs de gauche qui disaient « il y en a marre des vieux éléphants du PS ». En plus des hommes. Et Ségolène Royal, elle a été portée. En plus, elle a fait campagne sur la démocratie participative avec Désir d'avenir à l'époque. Et donc, elle a réussi à cristalliser comme ça une envie, un truc particulier. Elle s'est retrouvée candidate du Parti Socialiste au second tour face à Nicolas Sarkozy. Ouais, je sais pas, il se passe des trucs quand même. La primaire du PS de 2011, c'était après l'affaire DSK. Oui, c'était après l'affaire DSK, bien sûr. La primaire a eu lieu après l'affaire DSK. DSK était hors course. Mais ça justifie pas la victoire de François Hollande. Martine Aubry aurait dû gagner largement. Je pense. J'en sais rien, mais enfin. Comme le flop de Xavier Bertrand, si mes souvenirs sont bons. En quelle année, Xavier Bertrand? Parce que pareil, on peut discuter aussi de la primaire des Républicains, qui a été un vrai succès d'organisation et de cohésion du parti, pour le coup, et une vraie réussite de Christian Jacob. La primaire des Républicains en 2021, qui voit émerger Valérie Pécresse. Alors, ça donnera un score déplorable pour la candidate, mais c'était une surprise. Il n'y a pas beaucoup d'observateurs qui donnaient Valérie Pécresse gagnante face à Juppé, Fillon, Sarkozy. Non, c'est... La victoire de Hollande à la primaire, ce n'est pas une primaire ouverte avec des militants de gauche non PS qui ont aussi pu aller voter et donc fausser les résultats par rapport aux militants PS. Ça, à chaque primaire ouverte, on a les mêmes fantasmes sur des hordes de militants d'autres partis qui viendraient voter pour troller la primaire. Ça n'a jamais été vérifié. Jamais. C'est un truc qu'on se raconte, une espèce de légende comme ça qui circule. La victoire de Hollande à la primaire, encore une fois, on parle d'une primaire où il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont venues voter. Il aurait fallu que des dizaines de milliers de personnes qui détestent le PS claquent une demi-journée entière pour aller voter François Hollande à une primaire du PS. Non, Enfin, c'est juste, ça n'existe pas. C'est hyper marginal. C'est pas comme ça que ça marche. Et payer 2 euros en plus. Ouais, fallait payer 2 euros. Donc, gardez ça en tête. On va en avoir droit à nouveau. Alors, il y aura peut-être une primaire chez les macronistes, on verra. Primaire à droite, c'est pas sûr. Primaire à gauche, a priori, il va y en avoir une avec le projet Front Populaire 2027. Je m'attends à ce que dans mon chat, il y ait en permanence des gens qui me disent « Ouais, mais c'est une primaire ouverte, donc elle va être truquée de l'extérieur par des hordes de militants qui vont venir troller, etc. » C'est normal. Est-ce que le fait que les primaires fassent émerger des figures qui n'étaient pas favoris, est-ce que ça fait pas une forme de dégagisme des électeurs qui en ont marre des grandes figures ? Si, je pense. Vraiment, je pense. Hein. Que ce soit Ségolène Royal, que ce soit... Alors François Hollande, ça marche pas vraiment. Que ce soit Valérie Pécresse, Benoît Hamon dans une moindre mesure, à chaque fois, on a effectivement la marque d'une envie des électeurs de dégager un système trop établi, trop lourd, trop pesant. Et de faire émerger une personnalité nouvelle qui rafraîchit, qui change la donne. Que ça marche ou ça marche pas, c'est pas le sujet, mais en tout cas l'envie est là. Donc, est-ce que c'est une leçon pour l'avenir ? J'en sais rien. Est-ce que c'est une leçon pour l'avenir ? Est-ce que les futures primaires seront elles aussi des surprises en termes de pronostics et tout ? J'en sais rien. J'ai hâte d'en discuter avec vous quand elles auront lieu. En ce qui me concerne, je vais m'arrêter là, je vais pas tarder à bouger les amis. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais pas tarder à y aller. Ouais, j'ai rendez-vous du coup. Merci à vous. Passez une bonne soirée et on se retrouve demain à 17h pour une revue d'actu. Des bisous, les copains. Merci d'avoir été là. Ciao.